Hello les amis, vous allez bien? Alors on va allumer cette caméra, elle semble marcher, ça aussi. Ah, vous pensiez que en ce lundi 9 juin 2025, férié c'est ça? C'est quoi, c'est un lundi de... J'ai peur de me tromper, lundi de Pentecôte peut-être? Lundi de Pentecôte, vous diriez ça vous aussi, c'est ça? J'ai peur de pas être... C'est ça. Vous pensiez peut-être que il n'y aurait pas de revue de presse ce matin. Que nenni ! Surtout le lendemain d'un Simplay. Simplay, on se couche parfois un petit peu tard. Merci de nous avoir suivis hier avec la Minikoff. Il n'y aurait pas de revue de presse. Que nenni ! Oui, Monstrox, avec deux S. On lit les journaux aujourd'hui exactement. Salut Elio. Première fois sur ton live, j'ai hâte de découvrir ton stream. Merci Elio de ce gentil message. Le générique de Candy ? C'était quand? C'était pas le générique de Candy cette musique? Colorplast. Au pays de Candy tout ça? Mon anniversaire? Appen le goat, bon anniversaire. Est-ce qu'on peut tous souhaiter un bel anniversaire à Appen le goat qui fête ses 28 ans aujourd'hui? Je commence ton let's play sur Détroit. Je passe un excellent moment. Le Detroit Become Human, c'était un super jeu ça. On est en train de jouer d'ailleurs à un autre jeu du studio en ce moment, à Heavy Rain, qu'on est en train de terminer le prochain. Merci pour tous les bons anniversaires à notre ami là, à Appen le goat. On est en train de terminer le Heavy Rain du même studio un peu plus tôt que dans la chronologie que le Detroit Become Human. Sachant qu'en 2026, on n'a pas de date exacte encore, on attend un nouveau jeu de ce studio. Sur le PC à gauche de la télé, je l'ai utilisé pour changer la souris. Excusez-moi, je suis un peu maniaque. En arrivant sur mon PC perso, là, je me suis rendu compte qu'il manquait un câble, celui de la manette Xbox, qui nous sert justement à jouer à Heavy Rain en ce moment, qu'on finira peut-être ce soir d'ailleurs, ou demain soir ou plus tard. Et j'ai vu tout de suite qu'il manquait un câble. Moi, je suis un petit peu maniaque. Le câble de la manette Xbox qui est relié au PC. J'ai lancé une enquête ce matin. Je pense que j'ai retrouvé le câble. Ne bougez pas, je vais aller le chercher. Vis ma vie de streamer en direct. Mystère solved. Enquête résolue. C'est comme ça qu'on rate un stream. Hein, on lance le stream. On dit tiens, on va faire un petit Heavy Rain. Et puis au moment de lancer le stream, on dit ah, c'est marrant. Il n'y a plus de câble sur ma manette. Voilà. Et puis on se dit ah, il est où le câble? Et puis on en met un autre, mais un qui marche pas. Voilà. Alors comme je suis maniaque, voilà. Hop. J'ai lancé l'enquête ce matin et j'ai retrouvé le câble. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on lancera Heavy Rain, ce soir ou demain, je sais pas, eh bien, tout va marcher. Bien joué, Sherlock. De rien. Est-ce que j'ai... Super. Un ami m'a offert Blueprints samedi soir pour me forcer à jouer. Du coup, fatigué ce matin, j'ai passé ma soirée à jouer hier soir. C'est quoi, Blueprints? Est-ce que c'est 2h14 pour ton semi-marathon? Merci pour les... Bravo, matricule! Et avec son courageux, ça a fait des courses. Il y avait une course, il y avait 10 km hier à Paris. 10 km Adidas, je crois. Il y avait beaucoup de monde. Hein. Merci au sub du matin. Je remercie Yocomic pour le 13e mois, qui est avec nous pour la revue de presse ce matin. Je vous ai trouvé des petits trucs ce matin. Ça, c'est mes notes. C'est illisible. Mais moi, je n'arrive pas à me relire. Vraiment, des petites pépites, des articles bien faits, des réflexions bien construites, des trucs vraiment sympas qui nous permettent de réfléchir un petit peu sur l'actu. Yocomic, donc merci. Weirdo, merci pour ce 17e mois. C'est très... Salut Samuel, voici ma participation pour la journée de solidarité. J'espère que ça financera ta retraite. Merci Jérôme78, à l'instant, à la seconde même, vient de lâcher son 27e mois d'abonnement. Sébafil, un 42e mois il y a 2 minutes. Merci Laetitia pour ton 3e mois. Merci Ren, DNG, les habitués sont là pour le 29e mois. Rimek pour le 33e mois. Et un très gentil message qui m'a touché, que j'ai vu tout à l'heure pendant l'intro. Brian, Djouboul, Saderevsvalou, à mon avis, je te bouffe ton pseudo. Merci pour ton prime. Ça va, vous? Blueprint, c'est un roguelike, un jeu avec plein d'énigmes à résoudre, du genre où il faut prendre des notes à côté. Ah, ça, c'est bien, ça. Après, moi, le côté prendre des notes à côté... En fait, on devient paresseux quand on est streamer parce que le chat réfléchit pour vous. Salut Alice Belle, merci d'être avec nous ce matin. On devient paresseux parce qu'en fait le chat réfléchit pour vous, quoi. Et dans les enquêtes comme ça, eh bien en fait c'est le chat qui note les indices. Qui dit, hey Samuel, mais t'as pas vu ça, tu vois? Tu vois? Le chat réfléchit vite fait. Il réfléchit bien, mais surtout. Le lendemain de fête, j'ai mal à la tête, je fais un barbecue dans 2 heures. Non, merde, le boss. Bah, tu connais la recette. Hein. Hein, faut trop mettre un petit apéro vite fait. Hein. Enfin, c'est ce qu'on dit. Hein. Il trouve ça bien que le chat t'accompagne comme ça. J'aime bien, Vezad. Moi, j'aime bien. Je suis sur Twitch essentiellement pour échanger avec les gens, moi. Donc, ça me va. Ça me va, ça me va. Ça me saoule, je sais pas le mettre en français, Blueprint, si vous pouviez aider Louis Chartier. T'as fait la course? Non. Vie en journée de fin en famille hier. Tranquillou. Et puis de stream, puisqu'on a eu un petit sample hier soir. Je remonte dans le chat parce que j'ai loupé quelques messages. On fête, d'après le Figaro ce matin, on fête un anniversaire. Quelqu'un fêtait son anniversaire dans le chat. Il y a un autre anniversaire, si je comprends bien, c'est l'anniversaire de la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà. Bonne ou mauvaise chose, je spoil. De la vie générale, plutôt un truc raté. C'est le Figaro qui nous rappelle que c'était il y a un an ce matin, ce truc. Qui m'écrit de bon matin? Hein, quoi? Je comprends rien. Excusez-moi, j'ai un message urgent mais auquel je ne comprends rien. Voilà, vendredi. Excusez-moi, petite urgence d'agenda. Ah là là. Ah, je pourrais pas, je serai en déménagement. Va être compliqué ça. Excusez-moi, je dois. Voilà. Excusez-moi. Ce serait cool si on pouvait terminer Heavy Rain ce soir. Louis, il est très accroché à Heavy Rain. Ce soir, fais voir. Ça peut. Ça peut. Ou alors du Valo. Parce qu'hier, l'ami Nicolas, Nikoff, qui est un ancien joueur pro Fortnite, est venu voir mon setup et m'a dit Attends, tu joues vraiment avec des écrans à 120 Hz, quoi? Il m'a dit Mais Samuel. Mais Samuel, mais tu passes en 240 Hz, c'est Silver Gold tout de suite, quoi. Tout de suite. Voilà. On a beaucoup ri avec ça. Il me dit, mais tu joues en. Il me dit, mais ils sont en quoi tes écrans là? Bah, je sais pas. Je sais pas. Il me dit, mais t'es en 120 Hz? C'est pas possible. Mais tes écrans poussaient à 240. Alors on s'est rendu compte que mes écrans, ils pouvaient pas être poussés à 240 Hz. C'était 160 Hz maximum. Donc on l'a fait. On les a passés hier soir. Et dans ma folie, je me suis dit, allez, on va acheter des 240 Hz que je devrais avoir à peu près mercredi, quoi. Voilà, donc on joue en 120 Hz. Et donc, est-ce qu'on teste le 160 Hz ce soir? Est-ce que ça a changé quelque chose? À mon avis, ça va rien changer du tout. Mais bon, c'est très drôle. Je suis pas sûr que ce soit la faute des écrans, effectivement. Donc ce, ou alors Heavy Rain. Merci Ri Oiseau Soleil. C'est comme Riolet mais avec des lettres en plus. Merci beaucoup pour ce 4e mois. Merci Florian pour le 15e mois. Merci Elisabeth encore. Merci beaucoup. Merci pour ces subs de bon matin. Est-ce qu'un MVP sur les métiers du médical paramédical est dans les tuyaux? Non, mais c'est une très bonne idée, Jean Moule 2. Par contre, on a un MVP mercredi sur les diplômes. Est-ce que les diplômes conditionnent encore l'entièreté d'une vie professionnelle comme avant? Est-ce que c'est si important que ça pour déterminer toute une vie professionnelle, les diplômes MVP 18h? J'ai déjà ma réponse, MMG, oui et non. Merci beaucoup pour la participation à ce débat. Est-ce qu'on pourrait fêter, me demande Frosch Shader, un anniversaire à Manon, ami de Frosch Shader 22, qui fête ses 25 ans aujourd'hui? Manon, de ma part et de la part, à mon avis, de toute la commune, puisqu'ils sont trop gentils ici, un doux, lumineux, joyeux anniversaire, 25 ans, quel bel âge! Attends, mais Kalina dans 4 subs dans Simplay, ça a déjà été fait? Les habitués les habitués de la commune, là. Reveux pas, dit Nikoff, ok, mais quand est-ce qu'elle vient 4 subs dans Simplay? Mais elle est forcément déjà venue, non? Oui, sur Freddy. Ah ouais. Excellent. Excellent Simplay. Ah oui, sur le jeu d'horreur, là. Oh, c'était incroyable. Oh, je m'étais enfoncé le cou, la tête dans le cou, le cou dans le tronc dans le canapé. Tellement j'avais eu peur, je me suis confondu avec le sol. Ouais, c'était excellent ça. Oui, je l'ai déjà fait, bien sûr. Je me doutais bien aussi. Tu l'as en replay sur YouTube. Tu as tous les samplays. Tu as une soixantaine de samplays, 60 jeux différents, 60 jeux découverts grâce à cette émission en 2 saisons. Voilà, Sugar vient de vous mettre le lien. Tiens, je vous l'épingle là-haut. Hop, vous avez tous les samplays. Vous avez littéralement 60 jeux, quoi. Mais oui, la tête dans le cou, hein, pas dans le. Ouais, dans le cou. Ouais. Et c'était un très bon samplay. Qui mériterait beaucoup de vues sur YouTube d'ailleurs. Un coucou de la Nouvelle-Calédonie, salut Hans. Salut Bouli. Comment tu vas, patron? Merci Jouboul pour le patron. Bonjour, la santé mentale, c'est possible si ce n'est déjà fait. Alors Rudolf, moi je te propose. Je suis en train de te préparer un truc pour la rentrée sur la santé mentale. Ouais. Ouais. Rien de méchant, mais tu as vu, les sites X sont fermés, tu en penses quoi? En fait, je trouve que le sujet est intéressant, mais je n'ai pas encore trouvé l'article intéressant. Qu'est-ce que je pourrais faire pour jouer? Attends, c'est un truc d'agenda là. Moi, en fait, je fonctionne beaucoup à l'article. Il me manque pour l'instant, mais il va finir par venir, l'article bien foutu sur le sujet. Parce que je pense que c'est un sujet qui mérite d'être traité sérieusement. Attends, je peux. Mais je peux vendredi fin d'après-midi. Mais je peux faire vendredi fin d'après-midi. J'essaie d'arranger Joe sur un truc là. 14h30, je pense qu'à 16h30 j'aurais terminé. À partir de 16h même. 14h30, ça va faire 1 heure ce truc là. Ou à partir de 16h. Voilà, tiens. Même quand on peut pas, on essaie d'arranger les trucs. C'est important, un article bien foutu sur le sujet des sites X. Ah oui, il faut que ce soit bien fait, quoi. Alors, je ne suis pas au courant de l'actu bateau Rima Hassan. Là, je suis désolé, je n'ai pas trouvé un seul article là-dessus sur ce matin. Je suis un peu embêté parce que vous m'en parlez, mais je n'ai pas trouvé un seul article. Ils font un article bien gaulé sur le X. Ok, d'accord, inconnu masqué, ok. Pas un seul, ouais. Ah, c'est passé cette nuit. Ah bah, c'est normal, chouchou. Mais non, c'est pas les grands médias, n'en parlent pas. Si ça s'est passé cette nuit, les journaux, ils vont au bouclage. Ils font au bouclage le moment où ça part à l'imprimerie ou en PDF le soir, quoi. Le soir, 22h au plus tard, quoi. 23h max. Si ça s'est passé cette nuit. C'est pour ça, c'est pas. N'allez pas crier au complot, bande de complotistes, à s'informer sur Facebook, là. C'est juste qu'en fait. Car Twitter en parle pas, les médias. Mais non, voilà, Bipixo, c'est ce que je disais à l'instant. Ça ne peut pas être dans la presse qui boucle. À un moment, le journal, il doit aller à l'imprimerie. Donc, à un moment, il s'arrête d'écrire. Voilà. Inconnu masqué, les médias n'en parlent pas, ils nous manipulent. Si tu le dis premier degré, bon. Si tu dis premier degré, je te plains tellement. Non, c'est juste de la mécanique, en fait. On va aller voir, on va aller voir. Vous allez voir qu'on va trouver des articles. Là, on va faire le test tout de suite pour que les. Tu rigoles, mais moins capable alors. Sinon, on comprend pas. Parce que tu sais, des gens premier degré sur ces sujets-là, il y en a tellement. On va aller faire un test. On va aller voir si les journaux dont je vous parle en parlent, mais sur Internet. Puisque leur version par papier est allée au bouclage. Mais sur Internet, ces mêmes médias vont peut-être en parler avec des articles bien en ligne. On va faire le test tout de suite. On va commencer par ça. Mais c'est normal que ce soit pas dans les journaux qui sont partis hier soir au bouclage, puisque ça s'est passé a priori après, quoi. Peban Ward, je lis ton message et il me fait très plaisir. C'est des bons souvenirs, c'est des bons souvenirs. Ça se mérite de dire des dingues sans mettre de kappa et être quand même compris. Ouais, mettez des kappas quand vous faites du second degré, parce qu'en fait, des gens de premier degré, il y en a aussi, donc je ne peux pas vous distinguer, moi. Je n'entends pas le ton de votre phrase. On va aller voir ça. Tout de suite. Mais vous allez voir qu'on va trouver les articles. On fait ça? Vous voulez qu'on fasse le test? On fait ça? On va voir si on a des articles. Bah si je comprends bien, parce que je ne suis pas au courant, l'interpellation de Rima Hassan, c'est ça? Sur un bateau, je suppose que c'est un lien avec les migrants. Bonjour, je suis la Manon qui fête ses 25 ans aujourd'hui. Frost vient de m'envoyer votre message. Un grand merci à vous tous et votre communauté. On a fêté un bon anniversaire à Manon tout à l'heure. Manon est avec nous et nous remercie. Bateau intercepté cette nuit. Expédition humanitaire pour Gaza. Ah, c'est pour Gaza, ok. Let's go. Eh ben, on y va, les amis. Ok, super. Allez, c'est parti. Viens, petit clavier, viens, petit clavier. Viens répondre à la soif d'actualité de cette communauté de légende. Viens. Viens par là. Hop. Alors, je vais voir. Rima Hassan. C'est parti. Alors, allons voir ces fameux médias qui nous cachent la vérité, hein, comme je l'ai lu dans le chat, ces grands médias internationaux qui nous manipulent, hein, qui nous cachent la vérité, qui ne veulent pas nous en parler, alors que Twitter nous dit la vérité. Alors, il y a des gens qui le disent en riant et des gens qui le disent très premier degré. Allons voir ça. Allons voir ces médias qui nous cachent tout. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit rien. Vous aviez raison. Rien. Pas un article. C'est fou. On nous cache tout. On manipule l'opinion publique. Alors, à moins que j'ai mal maîtrisé OBS et qu'il faille que je réveille mon Google. Alors. Ah! Le Figaro. Le bateau humanitaire qui transportait Rima Hassan à Gaza intercepté par l'armée. C'est raté, le Figaro en parle. Le Monde. De Madeleine, bateau humanitaire ayant à son bord. Bon, on devine la suite. Article dans Le Monde. Ah! Mince alors! Bon, je vous cache le d'autres. Il y a 20 minutes aussi. Le Point nous en parle. Bon, on va essayer. On va faire tri par date. Voilà. Voilà, on a tous les médias là qui nous en parlent. Voilà, on a vu Le Monde notamment, on a vu Le Figaro, je pense que si on va sur Libération, on va en trouver. France Info, on a les réactions et tout. Ah, c'est fou. C'est fou ces médias qui nous cachent les infos en nous les cachant pas. Hein? C'est incroyable. Hein? Voilà. Comme explique un soupçon de parmesan, on fait un peu de pédagogie à l'information ici. Sur Internet, il n'y a pas de vrai bouclage comme en presse papier. Les sites peuvent publier et modifier leurs articles en contenu. Donc avant de crier au complotisme. Renseignez-vous sur Google Actu, ça nous a demandé littéralement 2 secondes pour vérifier que bah, les médias en parlent en fait. Hein, voilà. Bon, maintenant qu'on a fait ce petit travail qui est tout simple en fait, allons voir, je sais pas, moi le Monde ça me plaît bien moi. Qu'est-ce que dit le Monde par exemple? Ok. Je ne sais pas pourquoi tu perds ton temps et ton énergie à répondre à ces personnes qui sont de toute façon indécrottables. Si, 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 c'est juste un peu de pédagogie, ça nous prend 2 secondes. Hein. Faut répondre aux questions des gens, tout le monde n'a pas forcément ses réflexes. Ok. En direct, guerre à Gaza, c'était publié à 9h57, on regarde l'heure. Le bateau humanitaire avec à son bord Greta Thunberg également, vous ne me parlez pas de Greta Thunberg, elle était sur le bateau aussi a priori. Et Rima Hassan, arraisonné par l'armée. Du coup, l'armée israélienne, on va voir ça. Selon l'ONG, accostage en Israël prévu dans la journée. La liaison a été perdue avec le Madeleine, c'est le bateau, a annoncé la coalition flottille de la Liberté qui a affrété le navire d'aide à destination de Gaza, affirmant que l'équipage avait été kidnappé par les forces israéliennes. Ok. L'État hébreu, qu'est-ce que dit Israël, assure que les activistes vont retourner dans leur pays. Oh, c'est un tout petit, c'est le bateau. Il est tout petit ce bateau. C'est une coalition. C'est une flottille, parce que ce bateau, le bateau que je vois, il est minuscule. C'est pas qu'un bateau, il y a une flottille. Hein. Ok. Oh, ça c'est drôle ça. Ça, ça. On va pas se faire avoir. Hein. Pour le figure. De toute façon, on a vu que le Monde n'était qu'une, c'était un plutôt qu'un article construit, c'était une succession de petites dépêches. On va aller voir le Figaro. Donc le bateau humanitaire qui transportait Rima Hassan à Gaza intercepté par l'armée israélienne. Non mais il est tout petit ce bateau. Il y a quoi comme aide humanitaire dans ce bateau? Dites-moi qu'il y a plus de bateaux parce que, enfin, je suis pas un spécialiste de l'aide humanitaire, mais y a d'autres bateaux quand même, non? C'est une flottille. J'y connais rien, mais ah, c'est pour créer un passage pour les autres aides. Ok. C'est pour briser le blocus. Certains disent que c'est que de la com. Donc on va. J'ai pas suivi ce dossier, on va voir. Ok. Le ministère israélien des Affaires étrangères a affirmé que le bateau allait à côté en Israël, d'où ses passagers devront retourner dans leur pays. Jean-Luc Mélenchon dénonce une arrestation illégale. Ok. Donc, l'organisation, quelle est cette ONG? Freedom Flotilla Coalition, qui a affrété ce bateau qu'on vient de voir en photo, humanitaire, Madeleine, à destination de Gaza, avec à son bord notamment l'eurodéputée, donc la députée européenne, Lefi Rima Hassan, et l'activiste suédoise Greta Thunberg, a affirmé lundi que ce bateau avait été arraisonné par l'armée israélienne. Okay. Donc, parti d'Italie le 1er juin. Ok. Pour briser le blocus israélien, ok. Donc effectivement, il y a un côté symbolique, alors, médiatique, disaient certains. Le voilier faisait route vers Gaza après une escale en Égypte, en dépit de l'ordre donné par Israël à son armée de l'empêcher de rallier le territoire palestinien. D'accord. Alors le bateau donc a été dérouté, dit Israël, pour accoster non pas à Gaza mais en Israël, d'où ses passagers devront retourner dans leur pays. Ok. Donc on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon appelle les États, l'Union européenne, les Nations unies, l'ensemble de la communauté internationale à condamner cette arrestation illégale, à exiger la libération immédiate et inconditionnelle de l'ensemble des membres d'équipage, et à faire pression sur les autorités israéliennes pour qu'elles laissent passer sans entrave l'aide humanitaire vers Gaza, conformément au droit international. Bon, ça, qui peut s'opposer à ça? Qui peut s'opposer à ce que l'aide humanitaire puisse enfin accéder librement à Gaza. Là-dessus, on est d'accord. À raisonner, ça existe ce mot? Oui, Wildside, tu regardes dans le dictionnaire. Ça met des capas qui rigolent, mais va voir dans le dico, mon chouchou, oui. Merci, Cherge. Tu es là, enfin. Merci pour le 48e mois. Merci, PLNOLV, pour le 18e mois. Merci, Lambert le boss. C'est toi le boss. Merci. Merci, Christo. Merci, ton bienno. Vous êtes formidable. Ok. Plus tôt dimanche, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait annoncé avoir ordonné à l'armée donc israélienne de l'empêcher d'atteindre Gaza. J'ai donné pour instruction à Tsahal d'empêcher le navire d'atteindre Gaza à Greta, l'antisémite, et à ses compagnons. Alors voilà, évidemment, là on a un ministre israélien de la Défense qui est d'extrême droite, si je dis pas de bêtises, Israël Katz. Qui est un des plus virulents du gouvernement israélien, qui affirme que être pour l'aide humanitaire à Gaza, c'est être antisémite, évidemment, ne vous laissez pas avoir par ces éléments de langage. Hein. Être pour l'aide humanitaire pour les Palestiniens ne fait en rien de vous un antisémite, évidemment. Ok. Ok. Voilà, là on a un article de France Info également, qui a l'air bien fait aussi. Qui redonne les infos qu'on a eues dans le Figaro. D'accord. La députée européenne Manon Aubry, LFI, appelle le président français à dénoncer ce qui vient de se passer. Moi, j'aimerais un petit élément de contexte justement sur ce blocus de l'aide humanitaire, vous voyez. Pour aller un tout petit peu plus loin. On avait un article avant l'arrestation de France Info, qui est un peu court aussi. Voilà, un article du Figaro qui était aussi avant l'arrestation, enfin l'arrestation, l'opération du gouvernement israélien. C'est quoi cette musique là? Ah, alors tiens, on a les éléments du côté d'Israël là. L'État d'Israël ne permettra à personne de briser le blocus maritime de Gaza, dont l'objectif principal est d'empêcher le transfert d'armes au Hamas. Donc Israël se défend en disant, en fait, le blocus maritime de Gaza que nous avons décidé, ce n'est pas un blocus humanitaire, c'est un blocus pour empêcher le transfert d'armes au Hamas. Bon. Nous sommes 12 civils non armés, a notamment répondu Rima Hassan. Bon, il y avait d'autres militants, on le voit sur le bateau là. Effectivement. Donc c'était pas un bateau avec de l'aide humanitaire comme je l'ai pensé dans un premier temps. C'est un trajet symbolique pour dénoncer finalement ce blocus. Hein. Bon, bah ça a plutôt marché puisque du coup on en parle. Le Parisien en parle aussi, vous voyez? Je ne vais pas revenir sur la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza. On en parle quasiment tous les jours sur cette chaîne. Je sais que vous avez les infos. Désolé. Ok, super. Merci d'avoir attiré mon attention sur cette info qui s'est passée cette nuit finalement, hein. Merci beaucoup. Bon, et je sais que dans la revue de presse de demain, car demain il y aura une revue de presse, nous aurons des articles de fond sur ce qui s'est passé, vous verrez, ou des articles sur lesquels les journalistes auront un peu plus le temps de travailler, que là ils ont travaillé un petit peu en urgence, quoi. Voilà. Merci en tout cas. Merci El Giganto également pour ce 46e mois. Hein, donc rendez-vous demain pour aller un petit peu plus loin. Je vous lis rapidement sur le sujet. Merci Effleur pour le 23e mois. Du coup, une ressortissante française a été illégalement arrêtée par l'armée israélienne, si je comprends bien, dit Flenou. Alors, Israël dit qu'en fait, ils ne font que détourner le bateau vers Israël et après demander aux passagers de retourner dans leur pays respectif. Donc, ils ne sont pas arrêtés, interpellés au sens premier du mot, puisqu'ils, manifestement, ils vont être laissés en liberté. Mais. Quid de la légalité de cette action si, par exemple, l'arraisonnement du bateau s'est déroulé dans les eaux internationales? Je ne suis pas sûr que le mot arrestation soit le bon, mais ça ne veut pas dire que ce soit légal pour autant, quoi. C'est là où les articles de demain vont être intéressants, quoi. Ok, on prend rendez-vous demain pour essayer d'aller plus loin sur cette info, ça vous va? N'est pas impossible, effectivement, que cette action d'Israël soit totalement illégal, mais enfin bon, ce n'est pas une première fois. Je vous rappelle que la plupart de ce que fait la plupart des actions menées par Israël envers les Palestiniens sont illégales depuis très longtemps au regard du droit international, notamment pour ne parler que de ça, bon, évidemment, ce qui se passe à Gaza, mais également en Cisjordanie, avec la colonisation des territoires, la colonisation illégale des territoires occupés. Ça fait très longtemps qu'Israël et dire cela n'est pas être anti-Israël ou antisémite, hein, ça n'a rien à voir, mais ça fait très longtemps que sur ces sujets, Israël, le gouvernement israélien, l'État israélien, puisqu'on ne confond pas le gouvernement et l'État avec le peuple israélien, sont des choses différentes, eh bien s'est mis en dehors du droit international, mais ça fait très longtemps. On en parle demain? Ça vous va? Est-ce que vous êtes... je vois que vous êtes chaud. On se met un petit sommaire pour vous dire ce que je vous ai mis de côté. Ça vous va? Un petit sommaire de l'actu de ce matin? Ils se mettent le monde entier sur le dos exactement, Keio, et j'espère que la solution viendra justement de la communauté internationale. C'est parti? Ok. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Peut-être allumer la tablette. Viens par là, on va repousser le clavier. Ça parle de Roland Garros un peu? Oui, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a? J'ai des histoires assez incroyables ce matin. Oh, on n'allait pas voir mon code. Alors, un an à l'anniversaire, on a fêté les anniversaires tout à l'heure. Un an, il y a un an, la dissolution, j'allais dire ratée, ne spoilons pas. Il y a encore des gens qui pensent que c'est une dissolution réussie. Hein. Le président Macron n'a jamais vraiment dit que c'était raté. Quoique, peut-être, je ne sais plus. Un an après la dissolution, la France reste ingouvernable, avec une assemblée fragmentée et un bloc central à la merci d'une censure. La décision prise il y a un an de recourir à des législatives anticipées a fragilisé le camp présidentiel. Hein, l'occasion de faire un petit bilan sur ces un an de dissolution. Voilà, un an après la dissolution, Emmanuel Macron droit dans ses bottes. S'il n'en reste qu'un à penser que c'était une bonne idée, a priori, ce sera lui. C'est ce qu'on verra. Intéressant ce petit anniversaire. Ce n'est pas parce que ça n'est pas réussi que c'est un échec, nous rappelle Pascal. Hein? Ok. Intéressant ce petit anniversaire, ce qui nous permettra de faire un petit point sur la situation politique en France. À 2 ans de la présidentielle, sauf présidentielle anticipée. Bien sûr. Je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. J'adore. Merci, Belette. Premier sujet. Deuxième sujet. Est-ce que la France, est-ce que notre pays pourrait être mis, page 9, sous tutelle du FMI, du Fonds monétaire international, en mode, les gars, vous ne savez pas gérer votre argent? Hein? Vous savez pas gérer votre budget, on va prendre les choses en main et puis on va vous imposer une petite cure d'austérité. Voilà. Alors que le gouvernement doit trouver, vous le savez, 40 milliards d'euros d'économies dans le prochain budget, là, c'est un peu compliqué, François Bayrou dit qu'il n'y arrive pas trop. La ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, met en garde contre une intervention de l'institution. Si c'est le cas, on est dans une grosse mouise, dit MMG, c'est pas faux. Voilà. Est-ce que c'est possible que la France soit mise sous tutelle? Pas bon ça, hein. Du Fonds monétaire international, est-ce que nous remplissons les critères pour le faire, c'est-à-dire en gros des comptes publics sont pas trop tenus, plutôt oui, hélas. Hein. Est-ce que c'est possible en termes de droit, en termes de plein de choses, c'est plutôt non. C'est plus compliqué. Voilà. Donc on va se pencher sur ce sujet. Bon article dans le Parisien sur la question. La une du Parisien n'est pas consacrée à ça, à une enquête que je trouve assez intéressante, pour pas dire très intéressante. Un reporter du Parisien s'est fait embaucher comme livreur. Il s'est mis dans la peau d'un livreur, le livreur Deliveroo, livreur Uber Eats, voilà, pour réellement constater les conditions de travail et le salaire de ces livreurs maintenant qui sillonnent nos rues. Voilà. Le constat est édifiant. C'est-à-dire que le salaire réel de ces gens, une fois que tu as enlevé les heures d'attente pour une commande, alors qui est du temps de travail, parce que ces gens sont en train d'attendre, hein, littéralement dans la rue, quand tu as enlevé les charges, etc. Eh bien, tu te rends compte que le salaire, il est ridicule, il est très loin du SMIC. Donc, enquête extrêmement intéressante. Voilà. Lilou me dit, moi, je donne toujours un pourboire au livreur dans la limite de vos revenus. Essayez de nos revenus. Essayons de le faire. Essayons de le faire. Quand vous allez voir la réalité des chiffres de ce que gagnent ces gens, ils ont bien besoin qu'on ajoute effectivement à la commande. Ouais, tout à fait. Merci le Parisien de cette enquête que je trouve assez intéressante. Quatrième dossier ce matin. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah oui, vous vous rappelez, c'était triste ça, les violences qui ont. Il y a Don Comi qui dit j'étais livreur Uber et Deliveroo pendant 2 ans. Après une semaine, je m'étais syndiqué. Les conditions sont révoltantes. Bon, c'est ce que va nous confirmer cette enquête, effectivement. Ouais. Et si on ne peut pas donner un pourboire, un minimum de respect, c'est aussi important. Et Lio a tellement raison. Tellement raison. Vous vous souvenez des violences en marge des festivités qui ont entouré la victoire du PSG en Ligue des Champions. Voilà. Et il y a eu 2 morts, hélas, à regretter. Et puis, comme toujours, dans ce cas-là, sur les réseaux, et ici même, des gens qui en ont tiré des conclusions un peu hâtives, en mode, bon, les gars, faut supprimer le foot. Hein? Ah là là, les supporters des équipes de foot, et puis du PSG en particulier, et puis c'est pas possible, Et puis moi, j'ai osé émettre cette hypothèse en disant, bah attendez, des enquêtes sont en cours, attendons de voir. Quel est le profil des meurtriers, parce qu'il y a eu 2 morts, notamment à Dax, où un jeune homme avait trouvé la mort, mineur, je crois, peut-être 16 ans. Et je vous ai. Oui, ah oui, j'avais lu. Oui, Dragon White, t'avais raison, j'avais dit c'est au club de payer. Je lui dis, bah attendez, avant de dire au PSG, c'est au PSG de payer, notamment après la mort de ce jeune homme à Dax, bah attendons l'enquête. Voilà. Bah on a l'enquête. On a l'enquête. Et on se rend compte qu'en fait, ce meurtre n'avait rien à voir avec le foot et rien à voir avec le PSG. Voilà. Donc il fallait juste attendre un petit peu. Et puis si ça avait été un supporter du PSG ou que sais-je, bon, on aurait condamné, on aurait dit oui, il y a un problème dans le foot. Et puis il y a des problèmes dans le football. Mais avant de dire tout et n'importe quoi, il faut parfois attendre. On va aller page 13 dans le Parisien. Voilà. Le principal suspect du meurtre d'un jeune. Ah, 17 ans, pardon. À Dax s'est rendu. Donc c'est en fait c'est l'assassin qui avait 16 ans. C'est le meurtrier qui avait 16 ans. Et donc il a été mis en examen pour assassinat et incarcéré après une semaine de cavale. Bon, défavorablement connu des services de police, comme on dit, donc déjà connu pour d'autres affaires auparavant. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un conflit. Hein. Assassin, c'est avec préméditation. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça, Pascal. Ben oui, c'est parce qu'en fait, la question est posée. Est-ce qu'il n'y a pas préméditation? Parce que les deux jeunes gens se connaissaient. Ils avaient un contentieux depuis longtemps. Voilà, et ils se sont recroisés ce soir-là. Mais on voit bien qu'il n'y a aucun lien avec ni le foot, ni le PSG, ni etc. quoi. Donc c'est ce que montre le début de l'enquête. Voilà. Donc, on lira ça. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est pas parce que y a des soucis dans le football qu'on doit tout mettre sur le dos du foot, quoi. Extrait de l'article. Voilà. Les enquêteurs découvrent que Benoît, c'est la victime et le suspect, avait déjà eu des interactions tendues par le passé. Des précédents qui expliquent la qualification d'assassinat, donc ce n'est pas moi qui invente le mot, retenu à ce stade par la justice. Voilà. L'antériorité d'un conflit entre l'auteur et la victime pouvant laisser penser à un geste prémédité, a dit le procureur. Voilà. Quelques jours avant le drame, Benoît se serait notamment fait voler sa casquette par son agresseur présumé. Voilà. Après, vous pouvez aller engueuler les enquêteurs qui pensent que ça peut être un assassinat, mais effectivement, il y a du contexte. Ensuite, après l'histoire de Dax, on ira voir Ouf, ça c'est hyper inquiétant. Alors c'est toujours compliqué d'exposer ce genre de sujet parce qu'on se dit, on apporte la lumière sur des faits qui sont, comment dire, qui sont pas massifs, qui sont pas heureusement représentatifs de pratiques massives par une partie de la population. Mais on se dit, on crée peut-être de l'anxiété gratuitement, quoi. Mais pourtant, quand je découvre ça, ça fait froid dans le dos, quoi. L'ubérisation du crime. Page 21. Dans Le Monde. Tenez, regardez. Bon, Le Monde nous fait une petite mondinette, c'est-à-dire que parfois on ne peut pas capturer directement l'écran sur l'appli, ça arrive de temps en temps. Attends, j'essaie une petite manip, sinon je vais faire une petite capture d'écran. Alors, est-ce que c'est page 21 d'ailleurs? Non, c'est page. Où est-ce que je l'ai mis ça? Bon, je vais retrouver. Je regarde, parce que j'ai pas la bonne page. Le Monde. Bougez pas. J'ai pas le bon monde. Voilà. Je crois que je l'ai trouvé. Ouais, incroyable. Voilà, froid dans le dos, mais ça reste une minorité. Les infos créent bien un climat anxiogène. Exactement, Camisole. C'est la question que je me suis posée sur cet article. Mais quand même, c'est une enquête du journal qui montre qu'en avril, dans le cadre de trafic de drogue, en France, un homme de 19 ans, enfin, je veux dire un jeune homme, même si c'est redondant, a été tué près de Lyon. Il avait été recruté sur Telegram pour tenir un point de deal. Alors c'est un jeune homme, alors c'est ça qui est fou, dont le casier judiciaire vierge, aucun souci connu par rapport à une quelconque activité délictuelle. Un jeune homme sans problème a priori, et à un moment il cède aux sirènes d'une annonce sur Telegram et aux quelques centaines d'euros qui lui sont promis pour tenir un point de deal, jouer un rôle de surveillance, quoi. Donc il est recruté sur Telegram sans lien direct avec des trafiquants de drogue, hein, voilà. Et donc lui c'est la victime et on s'est rendu compte, on est en train de se rendre compte par l'enquête que le meurtrier présumé qui est extrêmement jeune, que je crois qui est mineur, on vérifie ça tout à l'heure, lui a été également recruté sur les réseaux sociaux. Ubérisation du crime. Voilà. On lira ça tout à l'heure. Ça fait froid dans le dos. Ça c'est dans Le Monde. La une du Monde consacrée, on y reviendra peut-être rapidement, aux petites bisbilles entre Trump et Musk, vous savez, on en a parlé déjà hier ou avant-hier. Hop, je vous mets la une. Voilà. Entre Trump et Musk, rien ne va plus. On en a déjà parlé ici, mais Le Monde a pris le temps du coup de mettre tout ça en contexte. Pourquoi les deux hommes, d'abord, ont été si proches? Voilà. Pourquoi ils se sont fâchés? Voilà, petite enquête du Monde. La rupture du couple, exactement. On en a déjà parlé ici, mais on ira un tout petit peu plus loin avec Le Monde, si on a le temps. Ok, Le Monde, tout sommaire toujours. Et aux États-Unis, alors faites-moi penser si j'oublie, ça me semble encore plus important, c'est plus frais. Dans le Figaro, page 5, on apprend que Trump, le président américain, a décidé d'envoyer la garde nationale. Donc les militaires à Los Angeles. Page 9, page 5. Ici. Le président a pris cette décision, qui est une décision qui a été très rarement prise dans l'histoire des États-Unis, donc d'envoyer l'armée contre des manifestants, après 2 jours de manifestants dénonçant les expulsions de migrants. Contre l'avis du gouverneur de Californie, qui est un démocrate. Voilà. Donald Trump déploie la garde nationale à Los Angeles. Décision extraordinaire, dit le Figaro, qui fait craindre une escalade de tension. la dernière fois que c'est arrivé, qu'un président a déployé contre l'avis d'un gouverneur des gardes nationaux, c'était en 1965. Donc on verra pourquoi cette décision et quelles sont les inquiétudes autour de ça. Faites-moi penser si j'oublie. Si on a le temps, on viendra sur la Switch. Bon, on a déjà parlé de la Switch ici, la Switch 2. Voilà. Mais Libération, là aussi, après quelques jours, après un peu de recul, et nous propose un article sur la Switch 2. Page 28. Hop, regardez. Là. Et on profite pour se pencher un peu sur l'écosystème Nintendo, qui est un écosystème très particulier, pas très ouvert en fait, qui s'autosuffit quelque part, nous raconte Libération. Imperméable aux logiques économiques de ses concurrents, capable de séduire tous les âges, le géant japonais dont la nouvelle console est sortie jeudi, a conquis une place unique dans l'industrie du jeu vidéo. Voilà. Donc en fait, j'aime bien cet article de Libération qui... Oui, Solvitex, la flottille, on en a parlé en début de stream, on y reviendra demain. Cet article dépasse en fait l'actualité Switch 2 et se penche sur l'écosystème Nintendo, hein, que certains connaissent déjà. Hein. Sugar me dit c'est clairement et c'est volontaire de la part de Nintendo. Je crois que Nintendo, par exemple, n'encourage absolument pas l'e-sport autour de leurs jeux vidéo. Et il y a des raisons à ça et on va essayer de les comprendre. Alors il y a Bono qui me dit Nintendo, cette société familiale qui poursuit en justice pour des fan art, ça je sais pas. Mais effectivement. Et Walcoum me signale une très bonne vidéo de Great Review qui explique la naissance de Nintendo. S'ils s'ouvrent, ils tuent leur modèle économique, me dit encore King Julien. Voilà. Merci à ceux qui me signalent qu'il y a une très bonne vidéo d'Augustin sur le sujet. Ok. C'est sa dernière vidéo? Lucky semble dire que c'est sa dernière vidéo. Donc Nintendo. Et puis je pense qu'on arrivera au sport. Et la belle une de l'équipe. Alors moi je suis pas un amateur de tennis, mais manifestement ce match, cette finale de Roland-Garros a été épique. Hop, je reviens à la une qui est ici. C'est une pub pour Rolex. 5h29 de légende. Je crois que c'est la finale, on va vérifier, de l'histoire de Roland-Garros qui a été la plus longue. Mené 2-7 à 0, ce qui est incroyable. Carlos Alcaraz a renversé Yannick Sinner au terme d'un combat d'anthologie d'une durée record. À 22 ans, l'Espagnol s'impose pour la deuxième fois d'affilée à Paris, donc il conserve son titre, mais à l'issue d'une finale complètement folle, quoi. Voilà. Très belle photo avec les ramasseurs de balles. Finale monumentale, effectivement la plus longue de l'histoire de Roland-Garros. Usucapion me signale que Sinner n'avait perdu aucun set depuis le début de Roland. Dernier acte qui entre dans la légende de ce sport et sacre l'Espagnol pour la cinquième fois en Grand Chelem. C'est fou ça, hein? Cinq titres en Grand Chelem déjà. J'ai pas vu Chohachin, non. Calvas de Pierre me dit, aucun rapport avec le tennis, mais est-ce que tu as vu les news sur Twitch, notamment ce que Chohachin a traversé? Qu'est-ce qui s'est passé pour l'ami Chohachin? Oh, ce grand écart de fou. Tentative de meurtre? Quoi? Pas un cinglé? Hein? Sérieux? C'est quoi cette histoire? Attendez, attendez. Non. Mais c'est nouveau? C'était le procès? Ah, c'est le procès? La tentative remonte, c'est le procès. C'est le procès qui vient de se tuer. C'est parce qu'il a sorti une vidéo dessus. Il a sorti une vidéo explicative samedi, d'accord. Effectivement, je vois des articles. Hein. Un célèbre streamer menacé au couteau devant chez lui, près de Montpellier. L'auteur présumé recherché. Le streamer Chohachin échappe de justesse à une tentative de meurtre. Ce sont les articles de janvier dernier. Mais voilà, il vient de sortir une vidéo sur le sujet, d'accord. Incroyable. Procès. Peut-être que si je tape. Quel est le vrai patronyme de Chohachin? Incroyable. Ok. Bon, en tout cas, si, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de l'ami Choachin et lui donner de la force au vu de ce qu'il a traversé, quoi. Je reprends donc au tennis. Donc, je vous ai parlé d'Alcaraz, bien sûr. Et puis, on viendra évidemment sur le sacre de Coco Gauff la veille. Ah, je ne sais pas, hein, ça passe pas. Tu as peut-être des infos, mais je les ai pas. Que pensez-vous des affirmations d'un sympa que je n'ai pas moi dans le chat? Et donc, Coco Gauff, cette Figaro qui rend hommage à Coco Gauff, l'américaine, qui en demi d'ailleurs avait battu la française là. Hein, c'est page 2 dans le Figaro. Hop. Voilà, Coco Gauff, étoile scintillante. Peut-être que ou peut-être que je confonds. Ah, c'est un peu embêtant alors. Parce que, un sapin sympa, tu as quand même écrit des accusations d'une gravité gigantesque dans le chat. Voilà, moi, j'ai pas les infos, donc je dis est-ce que vous confirmez les infos d'un sympa à propos de Choachin? Et maintenant, tu as écrit ou peut-être que je confonds? Oula, c'est un peu embêtant. C'est compliqué de. C'est un peu compliqué quand même d'écrire des choses si graves dans un chat et d'écrire juste après. Ou peut-être que je confonds. Peut-être pas. J'ai rien affirmé, c'était une question. Ah ouais, mais c'est une question gravissime, mon frère. Attends, je cite Pacoun, j'adore les gens qui balancent des dingueries sans être eux-mêmes sûrs. Non, non, c'est grave. C'est grave, tu peux pas. C'est comme ça que naissent des rumeurs, en fait. C'est chaud en vrai. Voilà, avant d'écrire quelque chose, même sous forme de question, hein, pour se dédouaner un petit peu, oui, vérifie les infos, parce que c'est gravissime, quoi. Et donc, on rendra hommage à Coco Gauff. Voilà. Elle avait déjà gagné des grands chelems, non, je pense, non, Coco Gauff. Je sais plus. Je pense que oui, non? C'est son deuxième? Ok, vous êtes fort. Ils sont trop forts. C'était une question, affirme un sympa. Je croyais avoir vu son nom associé à ce genre d'accusation, mais j'ai rien affirmé. Encore une fois, je posais la question. Ce que tu dois comprendre, un sympa, c'est que quand tu exprimes ce genre d'interrogation, puisque c'était sous forme interrogative, ça ne te dédouane pas. Si je te dis par exemple, tiens, regarde, un exemple. On valide la blague Coco Gauff au sucre. Joe Ball, je valide. C'est délicieux, les gaufres au sucre. Si je pose la question. Emmanuel Macron, attendez, c'est bien, imaginons dans 20 ans, on se retrouve ici. Hein, Emmanuel Macron, c'était bien ce président français qui mangeait des enfants? Point d'interrogation. Vais me dire, mais vous t'es dingue toi en fait. C'est une question, hein. J'affirme rien, hein. Je confonds peut-être. Hein. Enfin, Samuel Etienne, c'est ce que je pourrais dire comme dinguerie. Samuel Etienne, c'était bien ce streamer. Qui buvait du sang de lapin albinos nain? Point d'interrogation. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Non mais je sais pas, je pose une question. Tu vois? En fait, le fait de poser la question ne dédouane pas du fait que tu racontes n'importe quoi. Bon, ça c'est vrai par ailleurs pour les lapins, mais bon. Tu vois ce que je veux dire? En fait, donc, quand tu as écrit quelque chose, même souvent interrogatif, ça te dédouane pas du fait de devoir vérifier ce que tu racontes. Parce que c'est comme ça que naissent les rumeurs. Ok? C'est ok pour la pédagogie? Les pauvres lapins. Oui, mais enfin bon. C'est un exemple, quoi. Est-ce que j'ai encore un truc à vous lire? Ah oui, et pour finir. Ah, j'ai dit c'est pas c'était bien, mais je comprends que ce que tu veux dire, effectivement, c'est maladroit de ma part. Oui, tu comprends. Moi, bon, voilà, on en reste là. Tout va bien. Mais en fait, c'est comme ça que naissent les rumeurs. Sinon après, tu vois, si je relève pas ta phrase, quelqu'un qui va le lire et puis qui va prendre ça premier degré, qui va ressortir un jour et dire ah oui mais Choachin, ouais, j'ai lu des trucs problématiques sur lui, je sais plus quoi, je sais plus où, je sais plus ce qu'il a dit, mais ce mec est pas net. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. Donc attention à ce que vous écrivez. Et puis moi j'en profiterai pour revenir sur le très beau parcours de la française qui nous a fait tant rêver. Loïs Boisson, c'est dans Le Monde, page 19, let's go, voilà. Voilà. Ah non. Là, voilà.
La révélation de Loïs Boisson, ça revient un petit peu sur son parcours et tout. Et on espère bien sûr qu'elle va continuer à briller dans les prochains mois. En tout cas, elle est la nouvelle numéro 1 française. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit sommaire? C'est pas mal, non? Il y a des choses, hein? Et merci d'être aussi nombreux, ça fait très plaisir. Et maintenant, on va pouvoir commencer, je vais pouvoir vous lire tout ça. Sachant que je vous abandonne vers 12h30, j'ai un petit déjeuner de taf après. C'est ta came de travers ou ton appartement qui est naturellement penché? Quand je regarde ma came comme ça, elle a un peu de travers en fait. C'est peut-être moi qui suis un peu de traviole. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est joli. Je n'ai pas l'info Le Roi Arizona. Donc, si un jour je vois les articles là-dessus, sur le cartel mexicain de Sinaloa installé dans un petit village. Donc, si un jour je vois des choses, je te le dirai. Voilà. Je dis ça parce que c'est la quatrième fois que tu écris le même message en l'espace de quelques minutes. Donc, voilà. Je te dis que j'ai bien lu ton message. Ça, c'est que je vois tous les messages. Voilà. Il y a un seul truc que je sais faire correctement, c'est que je lis très vite. Donc c'est la quatrième fois que tu l'écris. J'ai lu les quatre fois et je t'ai pas répondu parce que j'ai pas d'infos. Mais si j'en trouve, je le ferai. Voilà. Alors on commence par un anniversaire. Bon anniversaire. Même ce message-là, Saint-Ézéchiel, je vois tout, je vois tout. Bon anniversaire! Dissolution. C'est l'anniversaire de la dissolution du président Macron. C'est la une du Figaro ce matin. Hop. Hop. Bon anniversaire. Un an après la dissolution. Alors, bon anniversaire, c'est peut-être le bon qui est en trop, quoi. Voilà. Donc, il peut redissoudre. Excellent, Raft. Alain. Alain Raft, bien vu. Hein, il y a un cooldown dans la Constitution de la Ve République. Le président ne peut pas dissoudre pendant un an. Bien joué. C'est vrai qu'à partir de ce 9 juin, a priori, pas avant le 7 juillet? Bah attends, Le Giganto, Le Figaro nous dit que ça fait un an. C'est un an et un mois? Ah, un an après l'élection. Bien vu. C'est un an après l'élection législative qui a suivi la dissolution. Donc c'est le 7 juillet. Ok. Bien vu, vous êtes fort. Ok. Donc, un an après la dissolution, la France reste ingouvernable. Bon, il n'y a pas de débat là-dessus. Avec une assemblée fragmentée, un bloc central à la merci d'une censure, la décision prise il y a un an de recourir à des législatives anticipées a fragilisé le camp présidentiel. Donc, souvenons-nous, il y a pile un an. Merci Dounis pour le 46e mois. Merci Pounia pour le 12e mois. Merci Liliane Soums pour le raid que je n'avais pas vu. Merci Sarah. Merci Auruc. Merci pour les soutiens. Donc, dans la foulée d'élections européennes catastrophiques pour son camp, on s'en souvient, le président Macron avait dissous l'Assemblée, à la surprise générale, hein, y compris de son camp. Ça rappelle la dissolution, elle aussi ratée, du président Jacques Chirac sur le conseil de Dominique de Villepin à l'époque. À l'arrivée, les législatives anticipées, tenues 3 semaines plus tard, n'ont pas vraiment produit l'effet recherché, avec une France devenue ingouvernable, fracturée en 3 blocs imperméables. Voilà, il y a un sondage au Doxa pour le Figaro qui dit que 66% des Français jugent mauvaise, finalement, donc aujourd'hui, cette décision de Macron, depuis la défaite des macronistes aux législatives, a accéléré la fin de règne du chef de l'État. C'est compliqué ce mandat pour le président Macron. C'était compliqué au début, puis là, il n'a rien arrangé. La dissolution n'a pas seulement eu des répercussions sur le camp présidentiel. Au RN, les conséquences se font également sentir. Depuis un an, le RN traverse une crise profonde avec une question lancinante. Qui sera son candidat en 2027? Alors là, je suis pas trop d'accord avec Le Figaro. Je vous lirai pas cet article, mais Le Figaro estime que le RN est en crise, qu'il se cherche en termes de stratégie. Finalement, il serait pas forcément pour une nouvelle dissolution aujourd'hui. Et puis, qui représentera le camp RN à la prochaine présidentielle? Est-ce que c'est Marine Le Pen? Or, elle est inéligible. Est-ce que c'est le numéro un le président du parti? Comment il s'appelle le jeune homme là, qui écrit des livres là, comment il s'appelle? Qui est beaucoup sur TikTok, tout ça là. Jordan Bardella. Merci. Bref. Et donc, le Figaro, on conclut que le RN est en crise. Je suis un peu surpris par cette analyse parce qu'il me semble que le RN se porte très bien, hein, si on en croit les dernières élections et les sondages. Donc je ne suis pas sûr de cette analyse, mais peut-être que je me trompe. Que dit l'édito de Vincent Trémollet de Villers cet anniversaire? 12 mois, c'est suffisant pour se pencher sur les fruits de l'arbre. Ils ne sont pas beaux à voir, le président est indéniablement plus faible qu'il n'était il y a un an. Le gouvernement de plus en plus liquide, c'est drôle, attend d'être aspiré par le siphon de la censure. Son ministre le plus populaire, Bruno Retailleau, cherche déjà comment s'échapper. L'Assemblée et ses minorités zombies sont à la dérive. Oh mon Figaro. Dans ce voyage au bout de la nuit politique, on trouve en forme de symbole une loi votée à la diable pour conférer à l'État le pouvoir de donner la mort et lui confier le rôle sinistre d'assister le suicide. Hop, 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 hop. Le Figaro qui dit tout le bien qu'il pense de l'évolution sur la fin de vie, du cadre de la fin de vie en France. Le plus populaire, ben oui, mais c'est le Figaro, mon chouchou, là. Donc là, c'est un petit peu biaisé quand même. Tout cela manque profondément d'énergie, de vitalité, d'enthousiasme, de confiance dans l'avenir, ce qui était la promesse originale du macronisme. Dans cette instabilité structurelle, doivent s'imposer deux exigences. Bon, c'est beaucoup de blabla, cet édito. Je suis pas convaincu. On va aller voir l'article plutôt. Ce sera plus intéressant. Là, ça part un peu. Pardon. Je n'ai rien contre Vincent Trémollet de Villers, mais cet édito part dans tous les sens. Il n'est pas très cohérent. Enfin, pas très intéressant. Je ne l'avais pas lu, par contre. Alors, est-ce que le président Macron regrette? A priori, non. Droit dans ses bottes, nous dit le Figaro. S'il a esquissé publiquement un semblant de mea culpa, le chef de l'État n'a en réalité jamais renié sa décision du 9 juin 2024, incomprise par la quasi-totalité de son camp. Voilà. Je peux trouver moyennement intéressant un article ou un édito du Figaro et une page plus tard trouver un autre article dans le même journal sur le même sujet intéressant. Parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Un journal n'est pas un monolithe. Un journal est composé d'hommes et de femmes qui sont journalistes et qui ne sont pas forcément d'accord entre elles. Ça dépend des rédactions. Et le Figaro est un journal qui est assez intéressant, où parfois dans le même journal, sur le même sujet, vous allez voir deux articles qui ne sont pas d'accord entre eux. C'est assez intéressant. Et souvent, l'édito de une, qui est souvent assez engagé, assez de droite, pour dire les choses, est parfois, très loin de ce que vous allez lire deux ou trois pages plus tard, sous une autre plume. Voilà. C'est assez propre au Figaro, ça, d'ailleurs. Voilà. En tout cas, le Figaro nous dit que le président n'a jamais vraiment dit que c'était une erreur, cette dissolution. Oh, c'est drôle, le début est très drôle. Emmanuel Macron se souviendra-t-il du monde d'avant la dissolution, hein, de l'époque où il disposait d'une majorité, alors absolue en 2017 et relative en 2022, où il choisissait ses ministres? Broubrou, qu'est-ce qui se passe avec tes solutions, là, c'est pas la première fois. C'est un petit délire perso, qu'est-ce qui se passe? J'ai un modo, là. Je sais pas ce qui se passe. Qui écrit des solutions. T'as écrit 10 fois solutions, donc ça fait 10 solutions. C'est une blague. Les meilleurs modos, bien sûr. Non, je l'avais pas, non. Elle est excellente. On ne peut pas sanctionner, c'est un modérateur. Je ne peux rien dire. Vous validez ou pas la blague, je vous laisse seul juge. Voilà. Alors, est-ce que le président Macron, question du Figaro, se souvient d'avant, quand finalement il était vraiment président? Depuis ce soir du 9 juin 2024, où il a annoncé sa décision, le président est essentiellement cantonné au domaine international. Avec les conséquences de la dissolution, la fin de règne s'est accélérée. Personne ne contredira ça. Hein. L'absence de majorité a privé Emmanuel Macron des leviers du pouvoir national. Bah ouais. Après un retrait contraint sous le gouvernement de Michel Barnier, à l'automne, il tente de se réinviter dans les affaires hexagonales depuis que François Bayrou l'a forcé à le nommer Premier ministre. Mais sa longue émission à la mi-mai sur TF1, qui n'a débouché que sur aucune nouvelle annonce, a laissé un goût amer à son camp. Parfaitement inutile, dit un ancien ami. Pop, 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 pop. Hein. Encore hier, et je vous en parle à peine, Emmanuel Macron a tenté un coup de gueule sur la remise en cause des mesures écologiques. Mais pardon, hein, je le dis sans animosité, mais qui écoute encore le président? C'est compliqué. Quand tu n'as pas la main, quand tu n'as pas le pouvoir, quand tu n'es pas soutenu par une majorité, quand tu n'as même pas pu choisir réellement ton Premier ministre. Voilà. Et c'est vrai que là, ces derniers jours, il a critiqué les décisions du gouvernement sur les reculs de la politique écologique, notamment sur le... Comment ça s'appelle les aides là, à l'isolement. Là. MaPrimeRénov, voilà. Mais qui l'écoute encore? C'est ça le problème. C'est ce que dit le Figaro. Ce qui, avant le 9 juin 2024, relevait la décision, sonne désormais comme de l'incantation. Et pourtant, pendant toute cette année, absolument personne n'a vu Emmanuel Macron rongé par les remords. Sans doute parce que dès l'origine, sa décision était inébranlable. Inébranlable. Qui ne peut pas être... voilà, inébranlable, quoi. Un proche se souvient cet après-midi du 9 juin, lorsque le président a commencé à annoncer la dissolution au compte-gouttes autour de lui. Quand je suis arrivé à l'Élysée, j'ai tout de suite vu qu'il était déterminé, qu'il n'y avait rien à faire. Inébranlable. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de se mettre dans la logique. On ne l'a pas assez fait. Merci Claire Adedi pour le 46e mois. C'est adorable. Et pour ton gentil message. Parce que cette décision, à l'époque, elle me semblait pas être une bonne décision. Et puis, j'ai pas beaucoup changé d'avis depuis. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi le président l'a prise. Le mec n'est pas... comment on dit sadomasochiste. Donc, c'est ça. Maso, il n'est pas masochiste. Hein. Pourquoi il a pris cette décision? Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on confirme cette certitude du chef de l'État d'avoir eu raison contre tout le monde. Il continue à penser que c'était inéluctable, qu'on ne pouvait pas faire autrement, c'est ce qu'il pense. À partir du moment où, depuis 2022, les partis ne voulaient pas jouer, on avait beaucoup de mal à passer des grands textes, comme on l'a vu sur certains projets de loi. Et quand notre liste n'a fait que 14% sur un sujet identitaire pour lui qu'est l'Europe, donc le mauvais score des européennes, il estimait que nous n'étions pas légitimes, plus légitimes, à gouverner comme avant. Ça, c'est un risque de Macron. C'était inévitable. Hein. On ne pouvait pas faire autrement. Moi, je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il aurait pu continuer à gouverner avec une majorité relative. Il aurait été beaucoup moins effacé. Voilà. Alors, ça, c'est intéressant ce que dit. Analyse d'un des prétendants à la succession du président, une défaite aux européennes, c'est pas une crise politique. S'il n'y avait pas eu de budget à l'automne qui suivait, là où une dissolution se justifiait pour demander aux Français de débloquer la situation. Et Emmanuel Macron, il a aussi dit, moi en fait je dissous parce qu'il était sûr que le prochain budget ne passerait pas, voilà, et que donc finalement il y aurait un vote de défiance contre le gouvernement, et que de toute façon il aurait fallu dissoudre. Macron a toujours expliqué avoir voulu anticiper cet obstacle en créant un effet de surprise. Voilà. Mais d'aucuns disent que c'est faux, qu'il n'y aurait peut-être pas eu forcément un blocage sur le budget. Quoi. D'autant qu'à l'époque, c'est d'abord son propre camp qui est pris par surprise, d'où la défaite aux législatives. Voilà. Et résultat, vous le connaissez. Hein. L'Assemblée se retrouve fracturée en trois blocs étanches. Et la France apparemment ingouvernable. Pas apparemment ingouvernable, ingouvernable en vrai. Soudre, 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 soudre. Dissoudre, ok d'accord. Je n'en peux plus, hein. J'adore. Alors, il faudra pourtant du temps pour qu'Emmanuel Macron admette à minima la stupeur dans laquelle sa décision a plongé le pays. Cette décision n'a pas été comprise. Donc effectivement, il ne dit pas que ça a été une mauvaise décision. Il dit que cette dissolution a été mal comprise. Hein. Ce n'est pas parce que ça... C'est quoi déjà la phrase ? C'est pas parce que ça n'a pas marché que c'est un échec. C'est formidable. C'est pas une mauvaise décision. Ça n'a pas été compris. Et d'ailleurs, la pique est plutôt pour les Français qu'à lui-même. Il a dit un peu plus tard, je dois bien reconnaître que que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solution pour les Français. Voilà. Mais il dit pour le moment. Donc il dit pas c'est perdu, c'est pas. Interminable déni, s'interroge le Figaro. Pour le coup, je pense qu'on peut difficilement donner tort à l'analyse du Figaro sur ce coup, quoi. Il n'y a jamais eu de vrai mea culpa, quoi. Intéressant. Ah, qui dit ça? Qui dit ça? Qui dit ça? Attends, c'est intéressant. L'un de ses conseillers voit quand même deux aspects positifs à la dissolution. Tiens donc. Un conseiller du président voit deux effets positifs à la dissolution. Moi, je suis curieux de savoir lesquels. Ça m'intéresse. Merci Séphirot pour le deuxième mois, tu régales. D'abord, ça a durablement abîmé l'image du RN dans l'inconscient collectif, à la fois sur la compétence du parti et la personnalité de Jordan Bardella. Bon, c'est vrai que les législatives du RN, certes, elles ont été bonnes pour le RN, mais elle a aussi montré que le parti n'était pas vraiment prêt et qu'il y avait notamment des candidats qui étaient extrêmement problématiques, vous savez. Ensuite, le résultat a contraint des gens qui ne voulaient pas travailler ensemble à le faire. Ouais, pas ouais, moyen quand même. Il y a l'embryon d'une culture du compromis à la française qui est nécessaire aux yeux du président. Alors oui, c'est l'une des faiblesses de notre système politique. Hein. On a un système de politique, nous, qui repose sur une opposition entre les partis. Là où dans d'autres pays parlementaires, bien les partis sont parfois obligés de s'entendre pour gouverner ensemble pour former coalition. Ça n'est absolument pas toute la culture de notre paysage politique français. Et le président Macron dit, ben, quelque part, j'apprends un peu aux partis à travailler ensemble, quoi. Ouais, pourquoi pas. Il y a l'embryon d'une culture du compromis à la française qui est nécessaire aux yeux du président. Bon, ok. Figaro rappelle que les députés macronistes ou ex-macronistes sont un peu en colère contre le président Macron en raison de cette dissolution, quoi. Ah! Récemment, un député macroniste, ou plutôt un député MoDem, donc on a du côté Bayrou, disait au président, il y a 3 ans, j'ai eu un RN qui faisait 31% au premier tour. Après la dissolution, c'était 41%. J'espère qu'il n'y aura pas une nouvelle dissolution pour arriver à 51%. Réponse de Macron, je n'ai pas prévu de redissoudre, de dissoudre à nouveau. Salut Caps Lock, bon courage. Si le chef de l'État martèle cette ligne censée rassurer, c'est qu'effectivement approche le 7 juillet, date à laquelle le président pourra de nouveau dissoudre. Ce serait une folie, soupire une ministre, mais il est toujours là où on ne l'attend pas. J'imagine le discours du 14 juillet, me dit Alain. Salut les gars, je redissous. C'est incroyable. Avis d'un constitutionnaliste qui s'appelle Benjamin Morel. L'idée qu'Emmanuel Macron pourrait revenir au centre du jeu en procédant à une nouvelle dissolution est complètement absurde, dit-il. Ça donnerait probablement la même assemblée que la dernière fois, en pire peut-être pour le camp macroniste, qui s'effondrerait un peu plus et en voudrait encore plus au président. Rationnellement, il aurait intérêt à se concentrer sur l'international, à ne pas revenir dans le bain national qu'en cas de crise profonde. C'est ce que prévoit la Constitution. Le président est au-dessus des partis et ses prérogatives lui permettent de trancher en cas de blocage. 22 mois en surplomb. Ça durerait encore 22 mois. De cette situation compliquée, là. Ouais. On a quand même un constitutionnaliste, un spécialiste de la Constitution, qui dit qu'il est impossible que le président Macron prononce une nouvelle dissolution. On verra. À partir du 7 juillet, marquez cette date dans vos agendas. Eh bien, il y aura peut-être une nouvelle dissolution. À partir du 7 juillet, c'est possible en tout cas. Il aime bien surprendre avec ses dissolutions. Alors bon, seul lui sait ce qui nous attend, dit El Runette. Peut-être que lui-même ne sait pas. Hein. Ça nous fera un petit. Eh, hey, ça nous fera un peu d'actu. Ça nous fera un peu d'actu. Ils vont faire les élections au mois d'août, au début du mois d'août. Mais qui sait? Du coup, depuis le début de l'article, il y a eu combien de solutions? Beaucoup, Brobo, beaucoup. Au moins 10. Est-ce que les députés peuvent engager une dissolution sans l'avis du président? Non, au fut, c'est une prérogative du président de la République. Sous le caribou dit après tout, serait le premier président qui déciderait deux dissolutions. Hein, rien que pour ça, et ça pourrait le tenter de rentrer dans l'histoire. Alors on a parlé ce matin, Wolf, de ce qui s'est passé avec la flottille humanitaire au large de Gaza. Et on en reparlera demain matin. Là, on est allé voir les premières infos.
Ok, voici pour cet anniversaire. Bon anniversaire, dissolution.
Merci d'être aussi nombreux ce matin, ça fait plaisir de voir que vous passionnez pour l'actualité. Allons, après ce joyeux, ou plutôt pas très joyeux anniversaire, allons... Oh sur cette question interrogée par... évoquée par le Parisien. Est-ce que la France, mesdames et messieurs, pourrait être mise sous tutelle par le Fonds monétaire international ? C'est déjà arrivé dans le passé, un pays ne va vraiment pas bien, les dépenses publiques sont dans une situation catastrophique, les finances sont en train de s'écrouler. Boum ! Intervention du FMI qui dit « Allez les gars, on va vous aider, par contre, vous allez devoir prendre des mesures d'une immense austérité. Oh » Vous imaginez ? La honte, comme dit Zoltan Bregovic, mais oui. Oui, c'est un peu ça, ouais. Sous tutelle ! En général, les gens qu'on met sous tutelle, c'est les gens qui ne sont pas capables de décider par eux-mêmes, c'est le principe de la tutelle. Voilà. Donc, question posée par le Parisien ce matin, vous allez voir, la réponse, elle n'est pas si simple qu'elle semble être. Alors que le gouvernement doit trouver 40 milliards d'euros d'économies dans son budget, là, la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, met en garde contre une intervention de l'institution. C'est Amélie de Montchalin, la ministre de l'économie, enfin pardon, des comptes publics, qui évoque cette solution, quoi. Si nous ne faisons pas ces choix maintenant, nous serons nos créanciers ou le FMI qui nous les imposeront. L'avertissement a été lancé par Amélie de Montchalin, la ministre chargée des comptes publics. C'est la première fois qu'un des membres du gouvernement évoque aussi clairement le risque d'une mise sous tutelle de la France par le FMI. En clair, qu'est-ce qui serait passé ? Qu'est-ce qui se passerait ? En cas d'envolée des taux d'emprunt, hein, la France emprunterait de plus en plus cher. Et ça, ce n'est pas une décision qui nous appartient. C'est les marchés qui décident à quel taux ils nous prêtent, en fonction de la confiance qu'ils accordent ou non à notre pays, ça. Hein. Article putaclic, dit Spinello, qui n'a pas lu l'article. On vient de dire le titre et deux lignes, et tu décides déjà que c'est un article putaclic. Peut-être que la logique et la sagesse seraient d'attendre la fin de l'article pour voir s'il est putaclic ou pas. N'est-ce pas ? Donc, en cas d'avolée des taux de l'emprunt, l'instance FMI accorderait des facilités de financement en disant « bon, on va vous arranger les trucs », mais en échange de réformes structurelles drastiques, réduction des dépenses sociales, du train vide de l'État, blablabla, blablabla. Voilà. Des déclarations qui ne surprennent pas l'économiste Marc Twati, qui dit « il y a quelques mois déjà, je parlais de risque de mise sous tutelle du FMI, tout le monde se moquait de moi, on me traitait de complotiste, c'est maintenant la ministre elle-même qui le dit. C'est bien la preuve que la France est dans une situation extrêmement dangereuse. » Alors Twati pointe le poids considérable des intérêts de la dette. Hein, c'est ce qu'on paye chaque mois, chaque année en intérêt de la dette, pas pour la rembourser, mais juste en intérêt. Voilà, on est à 67 milliards d'euros cette année. C'est davantage que le budget de l'éducation ou de la défense. Voilà. C'est-à-dire que on y est. Hein, on a frôlé ça depuis longtemps et maintenant, je crois, il semblerait qu'on y soit. On paye plus en intérêt de la dette que par exemple pour le budget de l'éducation nationale, qui est le plus gros budget de l'État. Ce qui est un petit peu ennuyeux. C'est de l'argent qu'on n'investit pas. Ni dans l'éducation, ni dans la sécurité, ni dans rien du tout. C'est juste qu'on file aux gens qui nous ont prêté de l'argent, quoi. Le FMI a d'ailleurs rappelé à la France, il y a 2 semaines, la nécessité de redresser les finances publiques et de poursuivre des réformes structurelles. Voilà. Alors que le déficit budgétaire est attendu à 5,4% en 2025. On ne peut pas tout effacer et repartir de zéro ? Ben, je ne suis pas économiste. Mais si tu dis à tes créanciers, les gens qui t'ont prêté de l'argent, investisseurs institutionnels, banques étrangères, pays étrangers, et même les épargnants, puisqu'une grosse partie de la dette française est détenue par les épargnants, en fait, français et étrangers. Hein. Tu te rends pas compte, mais quand tu places de l'argent, souvent même sans le savoir, tu achètes de la dette. Bah, en fait, le jour où tu dis, bon, je rembourse pas, la réaction des marchés va être compliquée, quoi. C'est-à-dire on va plus te prêter un euro déjà. On va commencer par ça. Et il y a de fortes chances que ton économie s'écroule derrière, quoi. Je vous lis, hein. Je suis en train de vous lire, c'est pour ça que je fais une petite pause sur ce sujet. Faut que je valide un truc. Excusez-moi. Hop, voilà. Les Allemands ont bien annulé leur dette d'un claquement de doigts. Les Allemands ont annulé leur dette internationale? Oula. Source? Les Allemands ont annulé leur dette internationale d'un claquement de doigts? Source de l'info? Ça m'intéresse. Parce que dans ce cas-là, moi, je veux qu'on fasse comme les Allemands. Hein. Tout de suite, hein. Source, t'inquiète. Certifié, no fake. Source, c'est quoi? C'est Evian? C'est quoi la source de cette info? Ah, moi je la veux, parce que dans ce cas-là, je veux qu'on fasse comme les Allemands, quoi. Source. Oh, salut Samuel, salut le chat, je suis allé au travail en oubliant que c'était férié aujourd'hui. Force Frozy. Source cristalline. Source PMU. Source mon tonton. Attends. Accord de Londres, février 53. Alors déjà, tu dis accord de Londres. Donc accord de Londres, ça veut dire que on serait mis d'accord avec eux. C'est-à-dire qu'on parle de l'Allemagne dans la reconstruction post-Seconde Guerre mondiale, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire? Donc c'est unilatéralement ou c'est en décision avec les créanciers au regard de la reconstruction de l'Allemagne? Pour éviter ce qui s'était passé après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire des réparations gigantesques qui avaient poussé le peuple allemand dans un nationalisme croissant. On va voir ça. C'est pas la même chose. Bah après, il faut revenir sur l'histoire des deux guerres mondiales pour comprendre. 1954, c'est ça? Là, j'ai 54, moi. Non, ça vaut autre chose. Parce que les accords de Londres, il y en a plein dans l'histoire. 53. Voilà. J'ai un truc vite fait, hein, vous allez voir la différence. L'accord de Londres sur les dettes extérieures allemandes, aussi connu comme l'accord de Londres sur les dettes, est un traité d'allègement de dettes entre, donc c'est un traité où ils se sont mis d'accord, entre la République fédérale d'Allemagne et ses pays créanciers, signé le 27 février 1953. Donc c'est un accord. Donc c'est contrairement à ce que la personne disait tout à l'heure, ce n'est pas un claquement de doigts de l'Allemagne. Tu vois? C'était les dettes allemandes datant d'avant et d'après la Seconde Guerre mondiale, bon, liées au conflit, quoi. Et donc il y avait la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, la Grèce, l'Iran, l'Irlande, l'Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, l'Espagne, la Suède, la Suisse, l'Afrique du Sud, États-Unis, Yougoslavie et autres, hein, qui ont finalement dit OK à l'Allemagne pour ça, quoi. Donc c'est pas un claquement de doigts de l'Allemagne, hein. Donc il y avait déjà les obligations du traité de Versailles de la Première Guerre mondiale, jamais honorées, hein, qu'on a annulées. Le montant remboursé fut réduit de 50% et étalé sur 30 ans. Une partie de l'accord incluait les dettes dues par le Reich, donc l'Allemagne nazie, à payer après la réunification de l'Allemagne. Au fil des décennies, il semblait improbable que cela n'arrive jamais. Et pourtant, en 90, l'Allemagne réunifiée a procédé à un remboursement de 239 millions de Deutschmark. Il y a eu des versements, il y a eu quelques. Donc on voit que l'argument, on n'a qu'à faire comme l'Allemagne, qui a annulé sa dette, donc on l'a compris, dette internationale moins importante pour nos amis allemands que pour nous aujourd'hui, d'un claquement de doigts, l'argument ne marche pas, quoi. Oui, la Grèce a reçu un haircut de 100 milliards pendant la crise de l'euro. Ça, c'est une annulation plus récente. Exactement. Mais Anatel, ce que vous ne comprenez pas, c'est que cette annulation de la dette, ce n'est pas la Grèce qui la décide. C'est les pays créanciers et le FMI en échange de réformes extrêmement. D'une grande austérité. Et c'est exactement ce dont on parle avec cet article d'ailleurs. On dit OK, on annule votre dette ou on vous laisse du temps pour payer. Ce qu'on appelle un aménagement de la dette, mais en revanche, vous allez devoir prendre des mesures. C'est exactement ce dont parle l'article. L'article qui dit par ailleurs que ça n'arrivera jamais, mais comme vous posez plein de questions en cours d'article, j'ai pas le temps de vous le dire. Continuons. Vous allez voir que l'article nous dit que c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Non, mais... Avançons. Manger l'austérité, ça veut dire par exemple réduire les dépenses, supprimer des postes de fonctionnaires. Réduire les allocations, les prestations sociales, etc., etc., quoi. Donc le FMI nous a effectivement adressé un avertissement il y a 2 semaines, voilà, sur notre nécessité de redresser les finances publiques et de poursuivre les réformes structurelles, alors que le déficit budgétaire est attendu à 5,4% en 2025. On rappelle que la limite fixée par l'économie des économies européennes, pour rester dans le cadre budgétaire européen, c'est 3%. On est déjà à 5,4%. Et si le pays échappe encore aujourd'hui à sa supervision, c'est selon Touati, toujours, grâce à la retenue des agences de notation qui se sont gardées d'allumer la mèche ces dernières semaines et n'osent plus dégrader notre note, car les taux d'emprunt de l'État français flamberaient et cela alimenterait la crise, dit-il. Alors, est-ce que ça pourrait provoquer une intervention du FMI, le Parisien qui pose la question répond plutôt non. Voilà, en citant Christophe Demby, qui est conseiller en stratégie d'investissement, il dit « La France ne peut être mise sous tutelle du FMI car il n'y a pas vocation à intervenir en zone euro, le FMI. » Bon, le monsieur, il pointe quand même l'état catastrophique de nos finances publiques. Voilà. Il explique qu'en cas d'attaque spéculative sur la dette française, donc à un moment, s'il y a une crise de confiance des prêteurs et tout simplement des marchés financiers sur notre économie, en cas d'attaque spéculative sur la dette française, ce ne serait pas le FMI qui interviendrait, mais le TPI pour Transmission Protection Instrument, instauré par la BCE, la Banque Centrale Européenne, en 2022. Mécanisme qui permet d'améliorer les conditions du financement d'un État en difficulté en achetant massivement des obligations. Ce serait l'Europe qui viendrait au secours de la France. Mais, et on en revient au problème originel, l'Europe, nos amis européens, ne nous ferait ce cadeau de nous soutenir en achetant massivement des obligations, voilà, qu'en échange de réformes structurelles imposées par la Commission européenne et en d'autres termes d'une politique d'austérité. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est pas le même intervenant, mais la solution serait la même. Voilà. Pas très rassurant, alors que l'absence de majorité à l'Assemblée rend périlleuse toute velléité de réduction des dépenses. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas très très réjouissant. Alors après, il y a « too big to fail ». C'est Anatel qui évoque cet argument sans le citer, c'est l'argument du « too big to fail ». La France ne peut tout simplement pas être abandonnée par les marchés financiers, le pays est trop gros, ce serait comme abandonner l'Allemagne. On est trop gros. Si on nous lâche, l'économie européenne s'écroule, l'économie mondiale s'écroule. C'est le « too big to fail ». C'est un argument. J'ai envie de dire « on verra ». À un moment, clairement, moi je pense aussi que les marchés financiers, c'est des acteurs égoïstes, quoi, qui s'intéressent à leur argent. Alors, oui, alors peut-être qu'ils vont se dire, bon, c'est vraiment un mauvais élève, c'est vraiment un mauvais élève, mais si on ne le soutient plus, finalement, on va perdre encore plus parce que tout va s'écrouler. En tout cas, c'est un argument qui joue pour la France actuellement. C'est un argument. Mais disons que notre situation économique, elle n'est pas très confortable, quoi. Pardon, mais le simple fait, encore une fois, je ne suis pas un économiste, mais le simple fait que l'intérêt de la dette française, donc chaque année, représente notre budget de l'éducation, le plus gros budget de l'État français, c'est comme ennuyeux. C'est-à-dire qu'une partie de la collecte de l'argent, hein, par vos impôts, l'impôt sur le revenu, la TVA, enfin toutes les impôts, les taxes qui existent, une partie importante de cet argent ne sert à rien, ne sert à construire rien du tout, juste à rembourser les intérêts de la dette. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Et puis ça peut aussi nourrir un profondément ressentiment envers le système. Parce que si on dit aux gens qui travaillent et qui cotisent, etc., bon ben c'est pas assez, il faut faire plus, et que les gens finissent par comprendre que c'est parce que on a assez mal géré le budget de l'État, et que de plus en plus d'argent va dans les caisses des créanciers internationaux, de ceux qui nous ont prêté de l'argent parce qu'on a été plus cigales que fourmis, ben à un moment les gens vont dire vous faites chier en vrai. C'est fâcheux, comme dit Clément. Il y a Culbute, OK, qui dit: moi, je suis très content de donner de l'argent aux banques, elles en ont besoin, avec un petit capa. Oui. Donc, c'est quand même embêtant de ce truc, quoi. Alors, il y a Spinono qui a écrit, parce que ça, c'est une théorie aussi: la dette d'un pays n'est pas vouée à être remboursée, contrairement à celle des particuliers. Ben, va dire ça à la Grèce. Va dire ça à la Grèce, à un moment à qui la communauté internationale a dit, l'Europe et le FMI, le jour où on a découvert que la dette grecque en fait était gigantesque par rapport à ce qu'on pensait, parce que les gouvernements grecs l'avaient cachée, et un jour il y a un gouvernement grec qui a dit, bon, en fait non les gars, on va vous dire la vérité, voilà ce qu'on doit. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fameuse dette qu'on n'est pas censé rembourser, comme tu l'expliques très très bien, eh bien en fait, la Grèce, menacée d'être lâchée par la communauté internationale, a dû prendre des structures, des décisions, des mesures d'austérité radicales. Et les Grecs s'en souviennent. Et les retraités grecs s'en souviennent. Donc cette fameuse dette qui ne doit pas être remboursée, pour certains peuples, et pas très loin de nous, dans le temps et dans l'espace, l'ont pourtant vécu, quoi. Donc cet argument-là, qu'est-ce qu'il vaut? J'aimerais que tu aies raison. Encore une fois, je ne suis pas économiste. Bon, vous êtes peu à me parler de l'exemple américain, qui a une dette publique qui est sans commune mesure avec celle de la France, qui est un pays qui vit à crédit depuis très très longtemps. Mais alors les États-Unis, eux, ils ont un autre avantage, c'est d'avoir une économie basée sur le dollar, sur le dollar, qui reste encore aujourd'hui, même si elle est de plus en plus contestée, la monnaie de l'économie mondiale et des échanges. Et ça, c'est une espèce de parachute permanent de l'économie américaine. Sauf que cette suprématie du dollar est de plus en plus contestée par les acteurs locaux qui essayent de mettre fin à ça, quoi. Et le jour où le dollar ne sera plus, ça arrivera bien un jour d'ailleurs, la monnaie qu'elle est aujourd'hui, les Américains auront également des problèmes. Eh oui. Et ce jour-là, il n'est pas impossible que les États-Unis prennent très très cher, comme le dit Ariati. Allez, je continue, sinon j'aurai pas le temps de vous parler des autres sujets d'actualité. Celui-ci est assez passionnant. On n'est qu'au deuxième sujet, j'en ai une dizaine à évoquer avec vous ce matin, et il ne nous reste plus qu'une heure. Alors, on est sur le dossier 3 qui est quoi? Ah oui, ça c'est incroyable ça. C'est l'homme du Parisien. Un journaliste du Parisien est allé bosser comme livreur pour les plateformes, là, Uber Eats, un de co, là. Voilà. C'est vraiment fait, enfin, a créé son compte, quoi, pour voir la réalité du travail effectué et la réalité de la paix. 3 semaines de travail, 150 courses effectuées, 600 km parcourus, 526 euros empochés, les dessous de l'économie de la flemme où les urbains passent commande pour un oui ou pour un non. Bon, il y a un article de Vie ma vie de coursier, que je ne vous lirai pas parce qu'on a manqué de temps, mais qui est intéressant, qui raconte un peu les coulisses, métier éprouvant, on s'en doute, attente interminable, consommateur indifférent, petite rémunération. Ce qui est intéressant notamment, c'est le manque de considération, de respect déjà d'une partie des clients. Voilà. Donc, vous lirez. C'est assez intéressant, c'est documenté, c'est fait avec beaucoup de rigueur. Il y a 2 pages où on voit que le quotidien de ces livreurs, il n'est vraiment pas facile. Je dis livreur parce que le coursier explique qu'il n'a croisé que des hommes et que c'est un métier essentiellement masculin. Il y a peut-être quelques femmes, mais c'est essentiellement masculin. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est vraiment d'aller voir l'économie de ce métier et la réalité de la rémunération qui est extrêmement faible et de plus en plus faible. Depuis le 1er juin, il y a une course minimale chez Uber Eats qui rapporte 3 euros, soit une hausse de 15 centimes. Pas de quoi chambouler les paies qui restent extrêmement faibles. Enquête de Vincent Mongaillard. Entre 2021 et 2024, là, il y a Pedro Luc qui, en rigolant, dit « travailler plus pour gagner moins ». C'est exactement ça. C'est exactement ça. Entre 2021 et 2024, en tenant compte de l'inflation, la rémunération horaire brute a chuté de 34,2% chez Uber Eats, de 22,7% chez Deliveroo, à en croire les chiffres dévoilés le 4 avril par l'autorité de régulation du secteur. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé, j'arrivais à gagner 2000 euros par mois. Maintenant, c'est 1200 euros, s'inquiète un Afghan bénéficiant d'un titre de séjour. En mars, des manifestations, plusieurs centaines de livreurs de tous les opérateurs s'étaient rassemblés dans les grandes métropoles pour protester contre les tarifs des courses, sujet trop faible. On ne décrochera jamais le jackpot au guidon d'un vélo ou d'un scooter lesté d'un sac isotherme dans le dos, la preuve avec ma propre expérience, raconte le journaliste. Concrètement, mes 150 livraisons étalées sur 3 semaines m'ont permis d'encaisser 743 euros, dont 28 euros de pourboire, seulement, ai-je envie de dire. 150 livraisons, 28 euros de pourboire. Je calcule. Alors, tout le monde ne peut pas donner de pourboire, mais dans la mesure de ses moyens, je pense qu'il faut faire un effort. 150 divisé par 28. Non, c'est 28. 28 euros divisé par 150. Pourboire moyen, 18 centimes. Bon. Donc, 743 euros en 3 semaines. Mais attention! Attention! Il faut enlever des trucs, là. De cette somme doivent être déduits les cotisations sociales URSSAF, 21% du chiffre d'affaires. C'est pas un revenu, c'est un chiffre d'affaires. Hein? Et les frais de location du vélo. Voilà. Résultat, l'aventure m'a rapporté 526 euros pour 45,5 heures de travail effectif. Voilà. Cela fait en moyenne 11,6 par heure, soit 2 bons euros de plus que le SMIC horaire net. On se dit c'est OK. On dit c'est OK. Mais, explique ce journaliste, ce montant est trompeur. Car il ne tient pas compte du temps passé à attendre une commande, jusqu'à 2 heures. T'es sur ton vélo, t'es dans la rue, t'attends la commande. Tu n'es pas en course. Voilà. Mais en fait, tu travailles. On est d'accord. Hein. Tu ne fais pas autre chose. Ou à pédaler pour 0 centime sur le chemin du retour à l'issue d'une course lointaine dans une zone où il n'y a pas de commande. C'est toujours du travail. Et donc, si on refait les calculs, J'ai été disponible pour livrer durant 115 heures. Voilà. Soit à l'arrivée, une rémunération rikiki, non plus de 11,6 euros par heure, mais de 4,6 euros par heure. Évidemment, un livreur chevronné, plus rapide, qui connaît les bons tuyaux, les bons quartiers, va avoir des revenus plus importants. Il n'empêche, explique ce journaliste, sauf à vouloir s'épuiser jusqu'au burn-out, on ne gagne pas beaucoup en pédalant, même quand on se lève tôt et qu'on se couche tard. Et même Uber Eats le dit, sur sa plateforme, la livraison de repas ne peut pas constituer une activité à temps plein sur le long terme. Eux-mêmes, ils disent, vous ne pouvez pas vivre décemment, quoi. Ok. Pourtant, la grande majorité des coursiers que nous avons rencontrés en Île-de-France charbonnent plus de 50 heures par semaine. Voilà. C'est fou. Hein. Après, vous avez un encadré sur les livreurs hors la loi, qui sont essentiellement des migrants sans papier, voilà, qu'on voit notamment dans les grandes villes, voilà, qui n'ont pas le droit de travailler et qui contournent cette règle. Je pense que tout le monde connaît l'astuce. Et la loi en sous-louant un compte à quelqu'un qui a des papiers. Voilà. À un compatriote qui, lui, a un titre de séjour. L'un d'eux témoigne, ça nous coûte 150 euros par semaine. Voilà. Il reçoit l'argent des livraisons. Il nous reverse ce qu'il nous doit. Voilà. Donc 150 euros par semaine pour sous-louer le compte. 100 euros par mois pour la location du vélo électrique. 300 euros de loyer. 1500 euros de revenus. Voilà. Après toutes mes dépenses, il me reste 200 euros que j'envoie à ma famille au Bangladesh. Tu commandes, toi, Samuel? Ouais, j'avoue. J'avoue parce que je ne sais pas cuisiner, qu'on ne cuisine pas, donc commande un petit peu. Non, pas beaucoup ces derniers temps parce qu'on s'est mis à HelloFresh. Bon. Donc du coup, on s'est mis à cuisiner, entre guillemets, et pour moins commander. Mais bon, comme j'ai la chance d'avoir les moyens, du coup, je mets un pourboire systématiquement à chaque course. Voilà. Quelle que soit la course. C'est quoi, pas beaucoup de trois fois par semaine? Non, moins que ça. Avant, oui, mais maintenant moins. Maintenant moins. Je dirais une fois à deux par semaine max. Je vous lis là-dessus. Oui, Chad for One, on en a parlé au début du live, tu l'auras en replay et on en reparlera demain. L'article parle pas de la sous-location de licence, bon, on l'a fait il y a 10 secondes, la carotte gris. Mais littéralement il y a 10 secondes, mais tu es peut-être arrivé il y a 9 secondes sur ce live, bienvenue. Scutiron, je pense que la solution n'est pas de ne plus commander sur ces plateformes, mais de faire des lois pour mieux rémunérer les livreurs, quitte à augmenter le prix des livraisons. On est d'accord. Jérém me dit, il est préférable de laisser un pourboire en espèces. Finalement, je pense que tu as peut-être raison. Je pense que c'est peut-être mieux de laisser directement de la main à la main, ouais. Ok. Bon. En tout cas, bravo aux Parisiens pour cette enquête et pour ce journaliste qui, littéralement, a vécu ça pendant 3 semaines pour comprendre de l'intérieur comment ça fonctionnait. Ça me semble un bel exercice, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ce matin à vous proposer ? Alors ça, c'est... Bon, ça me semblait obligatoire d'y revenir parce que vous savez, on a beaucoup parlé des violences en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Et puis, on a lu tout et n'importe quoi là-dessus. J'ai compris, vu dans ce chat, à propos des deux morts, parce qu'il y a eu deux morts, hélas, voilà, en marge de ce qui s'est passé après le match, et notamment après la mort d'un jeune homme à Dax, j'ai notamment lu il faut que le PSG paye. Et là, j'ai dit à l'époque, bah attendez, il y a une enquête qui est en cours, on va voir s'il y a un lien entre ces deux morts et le foot, et le PSG. Voilà. Et on se rend compte, par exemple, à Dax, mort d'un jeune homme, d'un mineur, le lien avec le football et le PSG, il est très éloigné, pour ne pas dire totalement inexistant, puisqu'on commence à voir les premiers éléments d'enquête, puisque le suspect, il n'est pas condamné aujourd'hui, donc il est suspect, le principal suspect du meurtre d'un jeune de 17 ans à Dax s'est rendu. Alors il n'est pas condamné, donc il est suspect, même si il s'est dénoncé lui-même. Donc la victime, 17 ans, l'assassin présumé 16 ans, je dis assassin parce que mis en examen pour assassinat, et incarcéré après une semaine de cavale. Assassinat, donc peut-être préméditation, c'est ce que pense la justice. Merci Ternalis pour ce 24e mois. Traqué par la police judiciaire, ciblé par une fiche rouge d'Interpol, ce qui est exceptionnel pour un mineur, il a fini par se rendre sous la pression devenue trop forte. L'adolescent de 16 ans, suspecté d'avoir tué Benoît, jeune garçon de 17 ans, samedi 31 mai à Dax dans les Landes, lors des festivités ayant suivi le sacre du PSG, s'est rendu aux autorités samedi vers 22h. Il s'est présenté de lui-même dans un commissariat de Bordeaux. Après sa reddition, le suspect né au Puy-de-Dôme a été présenté à un juge ce dimanche, puis mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire. Il a gardé le silence lors de son interrogatoire. Selon des sources concordantes, le père et la sœur de ce jeune homme ont eux aussi été interpellés ce dimanche après-midi par la BRI de Bayonne. Il s'agit d'éclairer le rôle dans la cavale du principal suspect. Bon, les faits. Le 31 mai, des centaines de personnes se rassemblent dans des bars du centre-ville de Dax pour la finale du PSG. Peu après le match, un mouvement de foule survient. Au sol, gît un jeune garçon, Benoît, 17 ans, frappé de plusieurs coups de couteau en plein thorax. Voilà. Et à l'époque, dans le chat, on avait vu ici, il faut que le PSG paye. Malgré l'intervention de plusieurs témoins et la prise en charge rapide du SAMU, Benoît décède quelques minutes après son arrivée à l'hôpital. Malgré l'absence de vidéosurveillance dans la rue du drame, les policiers obtiennent plusieurs témoignages et orientent leurs investigations vers un mineur de 16 ans, défavorablement connu du service de police, notamment pour des faits de port d'armes, selon le parquet, décrit comme l'auteur des coups de couteau. La piste se précise lorsque les enquêteurs découvrent que Benoît, la victime et le suspect, avaient déjà eu des interactions tendues dans le passé. Des précédents qui expliquent la qualification d'assassinat retenue à ce stade par la justice, l'antériorité d'un conflit entre l'auteur et la victime pouvant laisser penser à un geste prémédité. Le magistrat, donc le procureur de la République, a évoqué un contentieux préexistant entre les deux jeunes garçons. Quelques jours avant le drame, Benoît se serait fait voler sa casquette par l'agresseur présumé. Dans une prise de parole à l'issue de l'hommage rendu à Dax vendredi à la victime, vendredi la victime aura fêté ses 18 ans, le père de Benoît décrit son fils comme un garçon très gentil, généreux, discret, plein de vie et courageux, en attendant le résultat de son CAP et impatient à l'idée de passer son permis de conduire. Voilà. Donc, je reviens là-dessus parce que le lien, vous serez d'accord avec moi pour dire que le lien avec le foot, le lien avec la Ligue des Champions, le lien avec les supporters, le lien avec le PSG est assez faible quand même. Pour ne pas dire inexistant. J'y reviens parce que dans le contexte des violences qui, hélas, ont accompagné ce sacre, on a beaucoup entendu « c'est la faute du foot, c'est la faute des supporters ». Allez, on enchaîne. Pensez pour la famille de ce jeune homme. Ça, c'est un petit... J'ai le temps de vous faire ça ou pas? Oui, j'ai le temps. Sans ajouter au côté anxiogène de l'actualité, cette histoire elle est quand même un peu folle. Voilà. C'est pas souvent que je vous parle de faits divers, mais celui-ci, je sais pas, je le trouve complètement dingue. Attendez, je reconnecte le monde. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vous. Merci Misa. Merci Misa Live. Hop. L'ubérisation du crime. En avril, un homme de 19 ans est tué près de Lyon sur fond de trafic de drogue. Il a été recruté sur Telegram pour tenir un point de deal, comme son meurtrier présumé qui a diffusé la scène sur Snapchat. Donc je vous passe les détails de la vidéo. Voilà, donc c'était le 7 avril dernier à Vaux-en-Velin, dans le quartier du Mas du Taureau, donc près de Lyon. Alors, on retrouve un jeune homme abattu de 3 balles dans la tête. Voilà. Une école primaire est située à moins de 100 mètres. C'est le directeur d'ailleurs qui appelle le 17 après avoir entendu des coups de feu. Voilà. Voilà. Bah, manifestement, il y avait école puisque en même temps, il dit « rentrez vite les enfants ». Donc ça se passe à 100 mètres d'une école. Selon les médecins légistes, le jeune homme a été tué de 3 balles dans la tête. La victime a été rapidement identifiée. Abdel Hakim B, 19 ans, né à Glaizé, dans le Rhône, dans le Beaujolais. L'étudiant était connu de la police pour consommation de stupéfiants. Mais c'est tout. Il devait passer son brevet de technicien supérieur en informatique au mois de juin. Il attendait un contrat d'alternance pour se lancer dans la vie pro. Son père vivait en Algérie depuis quelques années. Sa maman était morte d'un cancer 2 ans auparavant. Voilà. C'est un drame absolu, dit l'avocat de la famille. Son parcours est à milieu du banditisme et d'un tel carnage. Ses frères et sœurs vivent un cauchemar, ils ne comprennent pas. Par un sinistre coup du destin, donc la victime, le jeune homme qui a été abattu, Abdel Hakim B, avait été recruté la veille pour tenir un point de deal. Il avait répondu à une offre d'emploi à guillemets, sur la messagerie Telegram, selon l'exploitation de son téléphone par les enquêteurs. Donc le point de deal, c'est un point de deal qui est aux deux chemins des barques, voilà, à Vaux-en-Velin. Point de deal convoité au chiffre d'affaires de plusieurs milliers d'euros par jour, où s'écoulaient héroïne et cocaïne. Ce qu'on appelle un four dans l'argot des trafiquants. Depuis la résidence familiale de Beaujolais, Abdel Hakim B n'a pas su résister à l'annonce proposée sur Telegram, promettant un gain de 220 euros par jour pour un poste de gratteur, d'intermédiaire entre dealer et acheteur. Horaire 9h-23h. Ses proches ont du mal à concevoir ce basculement du virtuel au réel. Voilà. Alors les enquêteurs ont utilisé les caméras de surveillance du quartier et ont remonté la piste de l'assaillant. Je vous passe les détails. Voilà. Et ils remontent de caméra en caméra et ils se rendent compte que le meurtrier est arrivé en gare de Lyon-Part-Dieu le jour même depuis un TGV parti à Paris. Voilà. Le suspect a été identifié en 8 jours, localisé à 500 km du point de l'assassinat. Mohamed G, 18 ans, a été interpellé chez ses parents. Quand ils ont inspecté son iPhone 13, vous allez voir, lui aussi a été recruté numériquement. Ils ont réalisé que le jeune homme avait lui aussi probablement été recruté sur Telegram pour une unique mission de tueur à gage accomplie en une seule journée dans une ville où il n'avait jamais mis les pieds. L'adresse était mentionnée dans une boucle WhatsApp. Voilà. Okay. Est-ce qu'on a l'âge du meurtrier? Attendez. Je l'avais quelque part, ça. Attends, je l'avais quelque part, ça. Alors, 19 ans, c'est la victime. Et le meurtrier, je l'avais dit, 18 ans? 18 ans, ok. 18 ans, pardon, je venais de le dire. Okay. Mohamed G a communiqué sur Snapchat et signale avec une intermédiaire qui a été retrouvée par les enquêteurs dans un foyer. Âgé de 18 ans, originaire du Kosovo, cette jeune cuisinière en apprentissage est soupçonnée d'avoir préparé toute la logistique. Réservation du train et des taxis, achat des gants, fourniture d'un sac ayant pu contenir l'arme, contre une rétribution de 700 euros, ce qu'elle conteste. Dans la messagerie, la jeune femme reçoit la consigne de récolter 2 500 euros et de les convoyer jusqu'à Paris, la rémunération du meurtre, selon les enquêteurs, le prix d'une vie. Donc le meurtrier, on lui aurait promis 2 500 euros. Et la police lyonnaise d'expliquer, depuis 3 ou 4 ans, on voit monter en puissance l'utilisation des applications et des réseaux dans la délinquance. Les trafiquants proposent de tout sur Telegram. Ils vendent des produits, ils donnent des missions, ils commanditent des expéditions punitives. Ils trouvent des candidats prêts à tout pour un billet. C'est l'ubérisation du crime. Mobile du crime, a priori, commandité par un gang concurrent. Le temps des gangs structurés, des clans familiaux semble dépassé, ajoute un enquêteur spécialisé. Le banditisme mute à grande vitesse, c'est ce que je trouve assez inquiétant. Les règlements de compte se décident par impulsion en quelques échanges. C'est imprévisible, sans aucun état d'âme. Dans l'affaire du chemin des barques, sur laquelle nous penchons là, les jeunes gens impliqués ne se sont jamais vus. Ils ne se connaissent, ils ne se contactent par Snapchat, se croisent furtivement, sans passer judiciaire, les deux. Hein. Ils grillent toutes les étapes criminelles à la vitesse d'une commande par Internet. Le cas de Mohamed G est édifiant, donc c'est l'assassin. Vous n'avez absolument pas le profil habituel qu'on peut trouver dans une pareille affaire, parce qu'on parle quand même d'un tueur à qui on a commandé un meurtre. Voilà. Votre profil est très atypique, insiste le policier qui l'interroge en garde à vue en espérant humaniser un peu le jeune homme mutique. Je ne vous raconte pas l'exécution, mais l'exécution, elle est sordide, c'est de sang-froid, quoi. Son avocat explique, il n'a aucun passé délinquant, encore moins de professionnel du banditisme. Le décalage est total entre l'acte qu'on lui reproche et sa vie personnelle. Ses parents et ses sœurs sont catastrophés. Il n'était jamais sorti de chez lui, jamais sorti de Paris. Mohamed G cherchait un emploi d'alternance depuis plusieurs mois, après un bac pro d'assistant de gestion des organisations. Il menait une existence lisse et sans histoire. Aîné de 3 sœurs, il aidait sa mère à faire le ménage et les courses. Ses parents finançaient son téléphone, ses Nike, son abonnement de 25 euros à la salle de sport qu'il fréquentait 2 à 3 fois par semaine. Il ne traîne pas avec les jeunes, il ne fume pas de shit ou de cigarettes, dit son père, ancien agent de sécurité. Il ne dépassait jamais il dépassait 23 heures lorsqu'il sortait le soir. Les parents ne lui laissaient pas de clé, il n'avait pas la clé de chez lui. Et son père lui coupait le wifi après minuit. Voilà. Il sort pas beaucoup et joue à l'ordinateur. Ses principales distractions, les réseaux, Snapchat, TikTok, WhatsApp, Signal, Telegram, parfois des jeux vidéo comme Valorant, un jeu de tir, précise-t-il aux enquêteurs. Mince. No comment. Le lendemain de l'assassinat, Mohamed G a demandé conseil à ChatGPT pour effacer toutes ses données personnelles des réseaux. Il a changé de téléphone, il a appelé Google et Apple en leur demandant d'appliquer son droit à l'oubli rapidement, sans attendre le délai de rétractation. Trop tard, il était déjà sous écoute. Voilà. Alors, bon, c'est très anxiogène. Hein. Et quand je parle d'un tel sujet, je m'interroge toujours en disant, mais qu'est-ce que j'apporte moi en vous parlant de cette information? Est-ce que je ne rajoute pas à l'anxiété de notre société? Voilà, quand je vous détaille ces profils de jeunes hommes qui n'avaient pas de passé criminel et qui se retrouvent l'un guetteur, l'autre assassin, en quelques clics, en quelques messages échangés sur Internet, quoi. Alors, je me pose la question et en même temps, Les enquêteurs de Lyon parlent de cette ubérisation du crime qui ne concerne que très peu d'individus, mais qui existe quand même. Et donc, ça me semble nécessaire de l'évoquer, quoi. Vous êtes plusieurs à me demander le pourquoi de ce meurtre, qui a commandité. Pogo Lul résume très bien. En gros, un gang dans Telegram a une annonce pour un poste de guetteur dans un point de deal. Un mec accepte, un gang rival met une annonce Telegram pour tuer un guetteur. Un mec à 500 km accepte et tue le guetteur, il ne se connaissait pas. Ubérisation du crime. Exactement. Voilà. Si vous voulez lire cet article dans son intégralité, n'hésitez pas, c'est page 21 dans Le Monde. Merci beaucoup, Dimitri. Ton message me fait super plaisir. Affolant, oui, Pion, qu'on est assez d'accord. Est-ce que c'est des choses un peu plus légères pour vous ce matin? Là, on est avec Le Monde. Ah ouais. Alors, plus léger, non? Non, on va aller voir Monsieur Trump. Alors, il y a ces bisbilles avec Musk. Je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, on en a déjà parlé. Mais il y a surtout l'histoire de la garde nationale envoyée par Los Angeles par le président américain, ce qui est. Ce qui n'est pas arrivé souvent dans l'histoire des États-Unis, que le président décide d'envoyer des militaires, la garde nationale, sur des manifestations. C'est page 5 dans Le Figaro, ce matin, ici. Donald Trump déploie la garde nationale à Los Angeles. Le président a pris cette décision, qui est une décision exceptionnelle, après 2 jours de manifestations dénonçant les expulsions de migrants. Contre l'avis du gouverneur, qui est un gouverneur démocrate, donc d'opposition, de Californie. Décision extraordinaire, nous dit le Figaro, qui fait craindre une escalade des tensions. Samedi, Trump a donc annoncé le déploiement de 2000 militaires de la garde nationale à LA pour lutter contre, selon lui, l'anarchie qui y règne. Des heurts ont éclaté vendredi entre la police de l'immigration et des manifestants qui protestaient contre des arrestations massives de sans-papiers. Trump a fait usage de ses pouvoirs fédéraux pour passer outre aux objections du gouverneur de Californie, hostile au déploiement de cette force de réserve militaire. Le gouverneur démocrate a critiqué l'action délibérément incendiaire qui ne fera qu'aggraver les tensions. Il a accusé l'administration Trump de mobiliser les militaires non pas par manque de force de l'ordre, mais parce qu'elle veut du spectacle. Les autorités californiennes avaient répété qu'elles avaient le contrôle des manifestations. C'est la dernière fois qu'un président avait ainsi déployé des militaires contre l'avis d'un gouverneur, c'était en 1965. Vous avez vu, ça n'arrive pas très souvent. C'était le président Johnson, Lyndon Johnson, qui avait envoyé en Alabama un contingent pour protéger une manifestation en faveur des droits civiques. Alors, le contexte, les infos, les manifestations qui ont commencé vendredi dans la banlieue latino de Los Angeles, où la police de l'immigration a effectué plusieurs descentes dans des entreprises, notamment en entrepôts de vêtements, à la recherche de sans-papiers. En fait, Esteban, c'est ton lycée qui doit prendre contact avec nous. Voilà. C'est à ton lycée de prendre contact avec Question pour un champion. Demande à ton lycée de m'envoyer un mail sur mon adresse pro que tu vas trouver sur les réseaux, notamment sur Internet, sur X. Et je leur répondrai, je les mettrai en contact avec qui de droit. Ok, Esteban? Merci de ta demande. Donc, vous savez que l'administration Trump a décidé de durcir la répression contre les sans-papiers. C'était dans le programme Trump, quoi. Les policiers ont été entourés de manifestants qui leur ont lancé des projectiles. Ils ont répliqué par des tirs de grenades assourdissantes, des gaz lacrymogènes. Les incidents ont continué samedi près d'un centre de détention aux abords d'un magasin de bricolage où des migrants venaient chercher du travail. Certains incidents ont dégénéré en violence. Une voiture a été brûlée, un incendie a éclaté dans un centre commercial. La police a ouvert le feu avec des balles en caoutchouc. Plus d'une centaine d'individus ont été arrêtés en 2 jours. C'est un peu chaud quand même. Les manifestations anti-expulsion sont poursuivies dimanche, avec un rassemblement prévu devant la mairie de Los Angeles. Des heurts qui se produisent alors que l'administration Trump accélère ses opérations d'expulsion massive, ce qui crée un climat de peur, pardon, dans les communautés latino. La police de l'immigration se concentrait jusque-là officiellement sur l'expulsion de sans-papiers avec un casier, mais c'était insuffisant pour la Maison-Blanche. Il y a quelques semaines, un conseiller de Trump a réuni les responsables de la police des frontières, les a mis sous pression, réclamant qu'ils augmentent leur quota d'arrestations quotidiens, y compris de gens qui n'avaient aucun problème avec la justice. Et donc récemment, il y a eu des descentes dans des usines avec une hausse spectaculaire des interpellations. Selon Goldman Sachs, la banque, 4% de la main-d'œuvre américaine est constituée de sans-papiers. Voilà pour l'essentiel. Il y a d'autres infos, et vous avez l'essentiel dans le passage que je vous ai lu. Je pense que c'est en train de s'aggraver, je pense qu'on en reparlera demain, me dit Doc Jordan. Question de Akaza. Les gens, dis-moi, c'est quoi ce site? Alors je ne sais pas si tu demandes quel est le journal que nous lisons, ou si tu demandes ce qu'est Twitch, ou si tu demandes ce qu'est la page de Samuel Etienne sur Twitch, je ne sais pas comment t'aider. Ou est-ce qu'il faut t'expliquer Internet? N'hésite pas à préciser ta question. En commençant par ChatGPT, dis-moi, et on va essayer de répondre à ta question qui pour l'instant te demande à être précisée. Bon, je pense qu'on y reviendra demain, effectivement. Parce que demain matin, il y aura une revue de presse. Je sais pas si on. Je pense qu'on va manquer de temps pour revenir sur les bisbilles entre Trump et Musk. On en a déjà parlé. Attends, je regarde ce qui reste comme. Quelle heure j'ai pris le. À quelle heure je vais à mon déjeuner là? Oh, si j'ai un peu de temps. Si j'ai un peu de temps. Si on va y revenir, on va y revenir. On va y revenir. Trump et Musk, le pourquoi du comment. Dommage, leur dispute de couple est passionnante. Mais Lydie, on y revient, on y revient, on y revient. J'ai un petit peu de train. Ça, c'est dans. Est-ce que c'est dans Le Monde? Non. Est-ce que c'est dans. Si, c'est la une du monde. Si, c'est la une du monde. Allons-y. Et on va pas skipper Alcaraz non plus, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Entre Trump et Musk, rien ne va plus. Oui, Rim Hassan, on en a parlé en début de live. Robis, tu l'as en replay, oui, mais on en reparlera demain matin aussi. À coup de nom d'oiseau, prenez vos popcorn. Chacun a son petit saut de popcorn. Eklama, coucou Samuel, est-ce qu'il y a un article sur la Freedom Flutia? Je viens de répondre à la question, on en a parlé en début de live, on en reparlera demain. Replay. La Chine. Non, pas la Chine, on en reparlera. À coup de nom d'oiseau, de menaces d'accusation, la relation du président américain avec le patron de SpaceX a explosé jeudi sur les réseaux sociaux. Allez me chercher un peu de popcorn. Explication page 2. C'est quoi toutes ces pubs là? Voilà. C'est quoi toutes ces pubs? C'est rare qu'on voit des grosses pubs comme ça dans le monde. Ok. Ah, vous n'avez pas la pub. Vous n'avez pas la scène. Voilà, la une du monde, ici. Ok, Roival qui régale, qui vient d'offrir, mesdames et messieurs, non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, non pas cinq, même pas six ou sept, pas huit, pas neuf, mais 10 abonnements à la communauté. Roival, merci beaucoup. C'est pas aujourd'hui la finale de Roland-Garros? Stilek, quitte-moi ce live tout de suite, parce que tu vas être spoilé, c'était hier, et on va en parler du résultat. Quitte-moi ce live tout de suite, tu vas être tellement spoilé, va-t'en, fuis! Cours, pauvre fou! Voilà. Voilà. Si vous voyez quelqu'un courir dans la rue en hurlant, c'est quelqu'un qui n'a pas vu que la finale était hier et qui. Non, non, ne lui donnez pas le résultat! Et qui va être spoilé dans un instant. Alors, la brutale rupture entre Trump et Musk, c'est quoi ce raid de fou? Merci Drakeos, merci mon ami. Merci beaucoup pour ce très beau raid. Merci, merci. On est comme toi, passionné d'actu. Alors, Trump et Musk, alliance ou amitié virile? C'est pas mal ce début-là. Alliance ou amitié virile? Convergence d'intérêts ou fascination mutuelle, tout cela est fini. Voilà, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Voilà, c'est fini. Et après, je sais plus. Hervé Villard. La relation unique, ça c'est le cas de le dire. Je vais très bien, et toi mon ami? Entre Donald Trump et Elon Musk a explosé à ciel ouvert jeudi 5 juin dans une escalade verbale d'une rare violence entre deux égaux sans limite. Comment ça? Égaux sans limite? Ah bon? Finissant en menace. Le patron de SpaceX et du constructeur automobile Tesla se trouvait encore dans le bureau ovale 6 jours plus tôt. C'est fou ça. Pour une sorte de pot de départ chaleureux avec le président. Sa mission officielle à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, le fameux Doge, prenait fin. Bon, ça n'a pas trop marché. Ses entreprises en souffrance à l'image de Tesla réclamaient toute son attention. Merci culotte courte pour ce 29e mois, tu régales. Ce jour-là, Donald Trump saluait son travail, son sacrifice pour débusquer la gabegie et les fraudes dans les agences fédérales. Tout allait bien, pourtant. Mais déjà, les critiques d'Elon Musk contre le projet de loi majeur du président, le Big Beautiful Bill, mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Clash, offre, non pas 5. Non pas 4, non pas 3, non pas 2, non pas 1, non c'est l'inverse. Non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, mais 5 abonnements à la communauté. Clash de 67, merci beaucoup. Alors qu'est-ce qui a provoqué l'ire, le courroux, la colère? Super, quand tu veux, on joue à Valo, Midra Keo, je suis sûrement encore plus mauvais que toi. Je cherche des adversaires moins forts que moi, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais attention parce que je viens de passer en 160 Hz. Et jeudi, je serai en 240 Hz. Attention. Attention. Et donc, qu'est-ce qui a prouvé la colère d'Elon Musk? C'est le projet de loi de Trump prévoyant notamment des baisses d'impôts massives et des nouveaux moyens pour la politique migratoire. Voilà. Et c'est des dépenses. Voilà. Et Trump, lui, non, il veut que l'État fédéral maigrisse. Et maigrisse radicalement. Donc, de nouvelles dépenses, Musk, voilà, son sang n'a fait qu'un tour. C'est une expression, ça? On dit ça, non? Et Musk, il dit, la banqueroute de l'Amérique, ça ne va pas. Tuez le texte. Kill the text. Kill the bill. En VO. Il a dû dire un truc comme ça, quoi. Alors, pendant un moment, Trump a gardé le silence, mais à un moment, il a pété un câble. Il a reçu à la Maison Blanche le chancelier allemand, Friedrich Merz. Voilà. Le mec a dû se demander ce qu'il foutait là, parce que, du coup, Trump, t'imagines, t'es chancelier allemand, tu vois, t'es reçu par Trump, et à un moment, t'as Trump qui part en sucette sur Musk, t'as rien demandé, tu sais pas ce que tu fous là. Et donc, devant le chancelier allemand un peu médusé, il est parti en sucette, quoi. Écoutez, Elon et moi avions une excellente relation, je ne sais pas si ce sera encore le cas. Il s'est dit très déçu, hein, par son ancien allié qui l'a beaucoup aidé. Voilà. Il a estimé que ses attaques étaient à mettre sur le compte de la déchéance de Musk. Hein, je vais être honnête, je pense que cet endroit lui manque. Il parle de Washington, tout ça. Je pense qu'il s'est retrouvé dehors et tout d'un coup, il n'était plus dans ce magnifique bureau ovale. Putain, c'est des enfants, quoi. Incroyable. Rappelons que Musk avait joué un rôle important dans la campagne électorale. Il avait quand même investi 270 millions de dollars. Il s'était ensuite installé pendant un moment, pendant la période de transition, à Mar-a-Lago, la fameuse résidence, hein, de Trump en Floride. Voilà. On a l'impression qu'il faisait partie de la famille, assistant à des entretiens officiels ou bien participant aux échanges sur la composition de la future administration, ce qui est complètement fou, quoi. Voilà. Salut King Ben Jones. Et puis, il avait eu une mission, hein, une liberté d'action inédite à la tête du Doge, hein, pénétrant le cœur des agences gouvernementales avec ses informaticiens. On avait raconté les histoires, c'est incroyable. Sabre clair, voilà, il voulait couper dans les dépenses, quoi. Voilà. Mais ce temps-là est bien fini. Elon Musk s'est précipité tel un kamikaze jeudi contre la façade de la Maison Blanche armée de ses messages en rafale sur X. Il a prétendu que sans lui, Trump aurait perdu l'élection. soulignant son ingratitude. Voilà. Et il lance même un sondage sur son réseau social, posant cette question, est-il temps de créer un nouveau parti politique en Amérique qui représenterait vraiment les 80% au centre? Musk menace de créer un parti politique, quoi. Et puis alors, il lâche une bombe. Je l'ai déjà raconté, mais je trouve ça tellement fou. Donald Trump figure dans les dossiers Epstein. Hein, les trucs de pédophilie, tout ça, là. Musk, il dit ça, de son ancien allié. Hein. Bah, ouais. Donc il vient de l'apprendre, sans doute. Si jamais il serait allié, sans doute, avec quelqu'un comme ça. C'est la raison réelle pour laquelle ils n'ont pas encore été rendus publics. Ouais. Alors deux choses d'une, ou il l'a appris genre une heure avant le tweet, ou il le savait avant. Et donc, son ancien meilleur ami était dans les affaires Epstein. Alors, rappelons Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en prison en 2019, puissant financier très mondain, condamné pour de multiples agressions sexuelles et trafic de mineurs. Alors, je pose la question. Je pose la question. Donc, où Musk vient de l'apprendre, cette supposée implication, ou il le savait avant? C'est drôle. Enfin drôle. Je sais pas si c'est le mot. Alors Trump explique sur son réseau à lui, parce que chacun a un réseau social. Musk, il a X et Trump, il a Truth Social. Il dit que Musk est devenu fou. Cela ne me dérange pas qu'Elon se retourne contre moi, mais il aurait dû le faire il y a des mois. Voilà. Bon, après, c'est des enfants, hein, c'est le petit garçon. Hein. Musk a dit, dans ce cas-là, Dragon, ma navette spatiale que la NASA utilise pour ravitailler la station spatiale internationale, eh ben c'est fini. Hein? La NASA, vous ne pouvez plus utiliser Dragon, ma fusée. C'est fini, c'est fini. Je suis en colère. Et puis, quelques heures plus tard, il revient sur sa décision. Voilà. Ok. Bon, non, en fait, non. Ok, non. Ok. Enfin bon. Bon, il y a un passage intéressant sur l'échec de sa mission à la tête du Doge, hein, les fameuses économies là. Voilà. Il avait dit qu'il allait faire jusqu'à 2000, je vous résume, hein, qu'il allait faire jusqu'à 2000 milliards d'économies, de coupes dans les dépenses publiques américaines. Finalement, au final, le bilan du Doge, c'est 175 milliards de dollars et les médias soulignent que ces économies ne sont pas documentées. Le secrétaire au Trésor lui a dit, tu es un imposteur. Voilà. Bon, ils sont fâchés. Non, d'imposteur en un seul mot. Oh, c'est un peu une histoire d'ego, je pense, là. Les républicains sont pour qui? Demande Loading BZH. Les républicains, c'est le parti qui soutient Trump. Hein. Alors c'est vrai que quelqu'un me dit ego et drogue. Alors je vous ai pas lu tout l'article, mais il y a un article dans Le Monde qui évoque un papier du New York Times le 30 mai qui révèle effectivement les détails de la consommation de drogue de Trump, notamment avant l'élection. Bon, voilà, je voulais passer, mais ça y est effectivement. Il l'a dit à des gens qu'il prenait tellement de kétamine, puissant anesthésique, que cela affectait sa vessie. On saura tout, hein. Il prenait de l'ecstasy, des champignons hallucinogènes. Il voyageait avec une boîte de médicaments quotidiens qui contenait environ 20 cachets, dont ceux portant la marque du stimulant Adderall. Adderall. C'est quoi Adderall? J'ai dit Trump? Non, c'est Musk, pardon. J'ai dit Trump? J'ai fourché. C'est Musk. C'est quoi Adderall? C'est bien ça? Amphétamine? Un truc pour la concentration? Adderall. Utilisé dans le traitement du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Conçu parfois pour être consommé de façon détournée comme des produits dopants. Ok, d'accord. Médicalement est principalement autorisé en Amérique du Nord où il est couramment prescrit. Dans la plupart des autres pays, sa prescription est interdite ou extrêmement restreinte. Ah bah dis donc, les États-Unis, ça va pas ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Incroyable. Merci Tlash 60. J'ai dit merci à Tlash. Oui, j'ai dit merci à Tlash. Merci beaucoup. Ok, bon, voilà pour cette petite page Trump. Il nous reste un petit peu de temps. Je crois qu'on va aller doucement vers le sport, je crois. Mais je me demande si on va pas passer par la Switch. Ouh oui! Le petit plaisir. Hein, parce que c'est quand même un événement dans l'univers du jeu vidéo. Voilà. On revient sur la sortie de la Switch 2. Je dis on revient parce qu'on en a parlé sur cette chaîne déjà. Avec plusieurs articles. C'est Libération qui nous en parle. Et alors, ce qui est intéressant dans cet article de Libération, c'est que Libé va au-delà de la Switch 2. Mais. Donne le contexte aussi, le contexte Nintendo, qui est un contexte très particulier, avec l'écosystème, hein, l'économie Nintendo. J'ai pu tester la Switch 2, oui. Ah oui, c'est vrai, je l'ai testé, ouais. Bah, sur un jeu, après, donc j'ai pas beaucoup de recul, mais sur effectivement sur Mario Kart World. Ouais. Et cet article est intéressant pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas parfaitement l'économie du groupe Nintendo. Nintendo joue carte sur table, on apprécie le petit titre sympa de Libé, imperméable aux logiques économiques de ses concurrents, capable de séduire tous les âges. Le géant japonais, dont la nouvelle console est donc sortie jeudi, a conquis une place unique dans l'industrie du jeu vidéo. Voilà. En vrai, le papier est vachement bien fait. Bon, je vous passe le début. Plus encore que ses performances technologiques ou ses jeux de lancement, ce qu'on retient de la sortie jeudi de la nouvelle console de Nintendo, la Switch 2, c'est qu'elle rend ou tend son cours normal, elle dégèle la situation, Nintendo qui n'avait pas annoncé beaucoup de nouveautés ces derniers temps, et promet de se projeter vers le futur. Ça commençait à urger. Pour la première fois depuis son lancement en 2017, la Switch avait vu son nombre d'utilisateurs actifs décliner en 2024, hein, tout comme le nombre d'abonnés à son service en ligne, contraignant à consolider. Et revoir à la baisse ses objectifs annuels. Pas de panique pour autant, puisque la Switch a rouvert à Nintendo les portes du succès, avec l'échec commercial de la Wii U 2012-2017, la popularité de son hybride mi-console de salon mi-portable, qui s'écoulait à 150 millions d'exemplaires, est si immense que la Switch reste en course pour disputer à la PlayStation 2 de Sony le titre de machine la plus vendue de tous les temps. Nintendo est une île. Voilà. Nintendo, un constructeur dans une position unique. Dans l'industrie du jeu vidéo, Nintendo est une île, un peu à la manière de celle d'Animal Crossing. Rien de fondamental ne devrait distinguer le constructeur japonais de ses deux concurrents sur le marché des consoles, Sony et Microsoft. Chacun a ses spécificités. Microsoft chassant plutôt sur le marché américain, Nintendo parvient à toucher un public plus jeune, mais en vérité, le fossé entre Nintendo et les autres est presque philosophique. Quand la principale source de revenus des constructeurs ne provient plus ni de la vente des machines, ni des jeux, mais des microtransactions. Nintendo se tient à distance de cette pratique qui consiste à vendre du contenu à l'intérieur des jeux. Quand l'industrie ne jure depuis 10 ans que par le modèle économique du jeu-service, en retenant les joueurs dans un écosystème marchandisé, Nintendo n'investit cet espace que du bout des orteils. Le constructeur semble imperméable aux logiques économiques qui s'imposent au reste de l'industrie. Depuis quelques années, tout le secteur du jeu vidéo s'emballe, dévisse et panique. Le cours de bourse de Nintendo, lui, frémit à peine quand l'entreprise annonce des résultats financiers en baisse. Nintendo est un continent. L'identité même du constructeur tient de l'anomalie avec ses porte-drapeaux imperméables au passage du temps recyclés de génération en génération. Les futurs succès de la Switch 2, pas besoin d'être un oracle pour les lister à l'avance. Un Mario Kart, un Mario 3D, un Zelda. Les joueurs savent qu'un nouvel Animal Crossing viendra, comme un Smash Bros, un Splatoon. Le secteur du jeu vidéo, déjà hyper friand de suites franchisées, touche à une forme de paroxysme conservateur quand il s'agit de Nintendo, qui redonne à chaque génération de consoles une nouvelle peau à ses vieilles séries. L'existence même de Mario, Zelda, Donkey Kong ou Kirby relève de l'anachronisme, tant ces personnages semblent rescapés d'une ère ancienne. Les années 80. La direction artistique du Nintendo World fonctionne comme un doudou pour les joueurs les plus âgés, tout en parvenant à capter les nouvelles générations. L'autre avantage de cette esthétique déconnectée de la quête de l'hyperréalisme étant qu'elle se marie à merveille avec la philosophie low cost, du constructeur qui préfère investir dans les technologies éprouvées et moins chères plutôt que de miser sur du matériel de pointe. Pourtant, c'est pas donné. Hein. Sûr de son public, le consolier s'autorise des choses que le reste de l'industrie n'ose envisager. Il ne baisse jamais le prix de ses productions maison. Quand n'importe quel blockbuster se retrouve soldé à 50% 6 mois après la sortie, Mario Kart 8 Deluxe coûte le même prix qu'à sa sortie en 2017 et figure invariablement dans la liste des meilleures ventes chaque année. C'est intéressant. Hein. Nintendo est devenu une citadelle imprenable. Derrière sa façade toute roudoudou, le japonais est aussi un des acteurs les plus distants et brutaux du jeu vidéo, imperméable aux réactions et aux critiques de ses clients. Les joueurs trouvent le prix de la Switch 2 et de ses jeux premium trop élevé. Ouais. Aucune réaction, aucun bouger, l'élasticité des prix est de son côté. Pas un mot non plus pour rassurer ses clients sur la fiabilité de ses manettes après des années de dysfonctionnement connus et assumées sur celle de la Switch. C'est vrai que ça marche pas toujours très bien ça. C'est marrant. Marius Chapuis résume cette philosophie. Le rêve de Nintendo, c'est de faire de l'immobilisme une promesse d'avenir et que tout le monde soit content. Nintendo a raison, me dit Roival, faut pas baisser les prix, c'est très bien que tout le monde achètera la console quand un nouveau Mario 3D ou un nouveau Zelda sera annoncé. Alors là, un bémol quand même, évoqué par le Figaro, l'empire de Nintendo ne peut se perpétuer qu'à une condition, l'excellence de ses jeux socles. S'il se gourre sur des lancements sur des jeux, tout le système s'écroule. Alors justement, pour l'instant, ça va. Rotley me dit, je vous trouve dur, les jeux Nintendo sont très bons, très inventifs, se renouvellent souvent dans le gameplay. Alors, pour avoir joué au dernier Mario Kart, là, il est joli, les graphismes sont sympas, il y a de nouveaux outils, enfin, de nouveaux objets qu'on peut utiliser en course. Alors il surfe sur un succès incroyable, mais il est pas il est bien, mais il est pas fou. Merci Javier Rito. Hein, comme le dit Rusty, niveau renouvellement, on repassera. Et c'est 90 balles. En attendant, ils sont toujours là, même après des ratés, me dit Ono. C'est vrai. Ça casse pas trois pattes à un Yoshi, me dit Kalem.
Qui m'écrit ?
C'est bon. C'est sympa, mais pas 90 balles, me dit Nartax. Et en même temps, y a-t-il matière à changer une formule qui fonctionne, dit Petit Tabouret. Pourquoi tout changer un jeu qui plaît, me dit Ronflax. C'est pas faux. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que vous êtes nombreux à me signaler la dernière vidéo de notre ami de Great Review sur Nintendo et sa philosophie. Et vous savez quoi, je vais aller vous la mettre en lien YouTube de Gret. Attends. L'ami Augustin. Excellente chaîne pour ceux qui ne connaissent pas. Alors attends, elle est où? la dernière vidéo de l'ami. C'est là. C'est ça là. Pourquoi Nintendo porte plainte contre tout le monde? C'est ça. Voilà. C'est celle-là, je crois. Hein. Sur la philosophie, sur l'écosystème YouTube. Ok. Je voulais épingler. Hop. Voilà. Je vous l'ai mis en haut, ok? De toute façon, tout est moins. C'est une grosse review. Non, ça donne envie de. C'est toujours super bossé, quoi. Voilà pour cet article de Libé dans le Monde. On en a parlé, oui, tout à fait, Sigurd, ce matin, de l'arrestation de la flottille. On en a parlé en début de stream et on en reparlera demain matin. Voilà. Bien sûr, Roival, on passe au tennis, let's go. Hein. Ah, intéressant ce que dit Saberan. Ubisoft a le même raisonnement, ça marche, pourquoi changer de formule? Du coup, il se meurt lentement. Nintendo est en train de partir dans la même direction. À voir, hein, c'est le futur, c'est l'avenir qui nous le dira. Il nous reste... Attends, à quelle heure je dois y aller? Est-ce que j'ai le temps de prendre un café? 35. Ouais, j'ai le temps de me faire couler un expresso. Hein, je vous mets même pas de pause. Et puis on finit avec le tennis, je crois. Donc je vérifie, j'ai rien d'autre avant le tennis. On avait donc la Switch en 7. Non, on part sur le tennis. Ok? On va faire Alcaraz, on va faire Coco Gauff, et on va revenir sur le parcours de Loïse Boisson. Enfin, je me fais juste un petit café, ok? Vous restez? J'ai repris le café alors, à toute petite dose, parce qu'en fait mes problèmes d'acidité sont en train de se résoudre, en fait, parce que j'ai arrêté le café. Et du coup, j'en rebois un de temps en temps. Voilà, voilà. Donc, mais un tous les 3-4 jours au lieu de 13 par jour. J'arrive. Non, je pars pas, il faut que j'arrive. C'est parti, ça va couler. Un Alderaal? Non. Oh, Camille qui sub pendant mon absence, qui pensant que je vais pas le voir. Merci Camille. Merci Camille pour les 5 abonnements offerts à la communauté. Passer de 13 cafés par jour à 1 tous les 3-4 jours, c'est pas un peu violent? Si, mais j'ai remplacé par du thé, je bois un peu de Coca Zéro. Voilà. J'ai arrêté le sucre aussi totalement. Voilà, je suis en train de me faire un summer body. Ça se voit, ça, mais il a un gros zizi. Body Niros. J'arrive. Ouais, c'est ça qui est intéressant sur Twitch. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes à la télé, les gens peuvent pas réagir, peuvent pas commenter. Et peut-être qu'il y a des gens en regardant Question pour un champion qui se disent, mais ça se voit ça, mais il a un gros zizi. Mais ils ne le disent pas, ils ne peuvent pas le dire, je ne peux pas le lire. Voilà. Et donc c'est très drôle qu'à un moment quelqu'un puisse le dire, l'exprime. Fake news ou pas d'ailleurs? Fake news ou pas? C'est fou, quel que soit l'homme, tu lui dis qu'il a un gros zizi, il sourit. Voilà. C'est un débat intéressant. Merci Ifrezo pour le soutien. Allez, tennis. Le débat surréaliste lancé sur Twitch. Bordel, le match est incroyable. Mais oui, mais bien sûr, mais on va y aller tout de suite là. Let's go, l'équipe, les amis. Allez, regardez-moi ça. Regarde cette une. 5h29 de légende, voilà, finale de fou. Jamais une finale à Roland-Garros n'avait duré aussi longtemps. Il y a déjà des finales de Grand Chelem qui ont duré plus longtemps, mais jamais. Merci Rintoru pour ce soutien, merci à toi. À Roland-Garros, match passionnant, hein, me dit Duduche qui devait être devant le match. Camille également, je sais pas où j'étais moi hier. Ok, Mephisto, merci pour le message. 5h29 de légende, mené 2-7 à 0, ce qui est quand même dingue. Hein. Carlos Alcaraz a renversé Yannick Sinner, donc 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6, au terme d'un combat d'anthologie, d'une durée record. Il paraît que c'était fou, que le niveau était incroyable. À 22 ans, l'Espagnol s'impose pour la deuxième fois d'affilée à Paris. Il a donc gardé sa couronne, il a défendu son titre. Et 3 balles de match, me dit MMG, pour Sinner. Voilà. Au Panthéon, Alcaraz et Sinner ont livré hier une finale monumentale la plus longue de l'histoire de Roland-Garros. C'était en pian, ça me plaît. C'est pour ça que vous n'étiez pas très nombreux hier soir. C'est pour ça. Il était génial le simplay hier avec Nikoff sur Mecabellum là. C'est pour ça. Putain, vous étiez là, vous étiez devant Roland-Garros. Le jeu a pas aidé, je pense. Bah, Sugar, il était top le jeu. T'as pas trop aimé Sugar le Mecabellum là? T'es bien, non? Non? Ah non? I am French Boy, t'as pas quoi accrocher non plus, toi? Très niche. Ah, j'ai bien aimé, moi. Je pense que je vais en refaire, moi. Du Mecabellum. J'ai bien aimé ce jeu-là. Je sais pas, je trouve ça marrant. Camille, t'as pas trop aimé, toi? Voltimer, t'as aimé? Il y a aussi le foot hier soir. Beaucoup sur le foot et le tennis hier. Trop bien, Murdoch, 500 heures dessus. J'ai acheté le jeu ensuite, me dit Violence MK. Je pense qu'on rejoue. Moi, je vais rejouer à ce jeu. Alors, article dans l'équipe. David Loriot, inutile de convoquer les belles phrases, les grands mots, ils ne suffiront pas. À compter ce que Paris a vécu hier sur le central Philippe Châtrier. À Roland-Garros, dimanche, c'est l'histoire qui s'est écrite sur Terre. Souvent, le temps déforme et disperse la réalité avec cette finale des internationaux de France entre les deux premiers mondiaux. C'est beau, ça. Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, c'est la légende qu'on a imprimée pour l'éternité. C'était leur premier rendez-vous à tous les deux en sommet d'un majeur, ce qui est incroyable. Ils en ont fait un moment, ils en ont fait un monument. Une œuvre majuscule qui entre au panthéon du sport, en tout cas du tennis, et par la grande porte, alors que ces deux bonshommes-là n'ont que 23 et 22 ans. Voilà. Donc, première finale en Grand Chelem disputée entre les deux, là, et déjà dans les livres aux côtés des plus grandes, des plus belles, des plus mémorables finales. Elle est la Calais fièvre étincelante entre le Bjorn McEnroe, 80, Wimbledon, Nadal Federer, 2008, sur le gazon. Djokovic, Nadal, Open d'Australie 2012, et Federer, Djokovic 2019. Voilà. Désormais et pour toujours, on se souviendra de ce 8 juin 2025. La marque est indélébile. Pour Alcaraz, évidemment, le Murcien a accroché une cinquième étoile sur le polo. C'est beau. Alors qu'il se balançait les pieds dans le vide comme une escarpolette en fin de quatrième set. Une histoire insensée. Une finale qui bascule dans l'irrationnel, la bravoure, le génie, le mythique. Waouh. Il n'imaginait cependant pas vivre ça, Alcaraz, pas comme cela. Ça, c'est 3 balles de match à 0,40 sauvées sur sa mise en jeu. À 3-5 dans la quatrième manche. Ça, c'est 13 points inscrits sur les 14 qui suivent dans une sorte de frénésie générale, de grâce divine. Tout devenait fou. Les loges étaient debout. Spike Lee, Clovis Cornillac, Pierre Ninet, Samuel Etienne. Non, il était en plein simplet, le pauvre. Voilà. C'était beau et saisissant à la fois. C'est pour ça que j'étais pas là hier soir. Il fallait bien que ça bascule, que la légende choisisse son camp. Sinner et Alcaraz sont appelés à régner sur le tennis mondial pour les 10 ans qui viennent. Cet acte final n'est rien qu'une certitude de plus. Si Alcaraz est aujourd'hui porté au nu et double champion en titre désormais à Roland, Sinner fut d'une résistance phénoménale, car il fallait se remettre de ces 3 balles de match tombées en fin de quatrième set, de cette caresse fugace au trophée, de ce break concédé d'emblée de cinquième set. L'Italien n'a pas l'allure du héros, il ne brandit pas le poing tel l'auguste empereur, mais le bonhomme fut hier un vaillant magnifique sous la casquette pour envoyer le match au bout du bout de l'extase et du plaisir. Il est très bien écrit cet article. Sur un super tie-break, le seul du plateau masculin sur toute la quinzaine, sinon ne pouvait ensuite donner plus. Mais il sait aujourd'hui qu'une volée plus sûre et un travail efficace dans le petit jeu peuvent l'emmener très haut sur toutes les surfaces du monde. À l'aube de ce tournoi, pas comme les autres, on avait rêvé de ce rendez-vous. Ces deux génies du jeu en ont fait un tableau unique, une œuvre d'art. Il y a 2 semaines, on fêtait le roi des lieux, Rafael Nadal. Le Mallorquin ne pouvait sûrement pas rêver de plus bel hommage à sa terre et à son sport. C'est très beau, hein? C'est très beau. Très bel article, très bien écrit. Vous êtes plusieurs à me dire que Sinner a un tennis qui est esthétiquement beau à voir. Un peu comme on disait ça de Federer, c'est un peu ça, non? Je suis pas très spécialiste de tennis. Tu as connu Björk, toi et tout? Mais bien sûr, j'ai connu Björk, bien sûr. J'ai connu Suzanne Lenglen, moi. J'ai vécu l'époque où les gars, ils n'avaient pas de raquette. Ça jouait avec la main. C'était avant l'invention de la raquette. Bien sûr, bien sûr. Il n'y avait pas de balle, il n'y avait pas de balle. Non, j'ai connu avant les raquettes en bois, moi. Les mousquetaires, bien sûr, mais pas les mousquetaires du tennis, les vrais mousquetaires, moi. D'Artagnan, tout, j'ai connu ça. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Le jeu de paume, j'ai connu le jeu de paume, j'étais là. Et oui, oui, c'était pas des balles, c'était des testicules de chevreuil, exactement. Eh oui, ah, la grande époque. Bien sûr. Voilà. Donc, un gros dossier dans l'équipe. Voilà, sur ce qui s'est passé. Et puis, on va rendre hommage quand même à Coco Gauff, hein, vainqueur chez les femmes. C'est le Figaro qui n'oublie pas cet hommage. Hop, quand même. Hein. Premier Roland-Garros, je crois, pour Madame Gauff. Page 6. Non, c'est pas page 6. Page 9. Là. Hop! Une étoile scintillante, c'est magnifique. Ouh! Ah, super. Génial, bonne nouvelle. Récemment, j'ai changé mon mail pro et parfois, pour certains sites, c'était très compliqué de faire changer l'email. Je pense que vous connaissez le sujet. Et là, j'ai un des derniers comptes auxquels je n'arrivais pas à changer qui m'envoie un mail comme quoi ils ont enfin compris. Coco Gauff, une étoile scintillante, l'américaine a décroché son premier titre à Paris, celui dont elle rêvait depuis ses plus jeunes années. Moi, j'aime beaucoup cette joueuse. Un masque de fer, des jambes, des reins, une défense d'acier, une panoplie éclairée par un regard déterminé, ne souffrant pas la moindre baisse d'intensité. Article signé Jean-Julien Esvan dans le Figaro. Durant 2h38, Coco Gauff a en finale contre Arina Sabalenka, numéro 1 mondial, résisté à la fureur d'un départ qui aurait pu l'ensevelir. Mené 4-1, 40-0. Voilà. L'américaine a tissé une toile patiente pour aller arracher 6-7, 6-2, 6-4, une deuxième couronne en Grand Chelem, puisqu'elle avait gagné l'US Open. 2023. Arrêtez les blagues avec les gaufres. Hein. On a eu gaufre au sucre tout à l'heure. Gaufre coco maintenant. Enfin! Un peu de respect pour les patronymes. Stop les blagues sur les gaufres. Enfin! J'ai déjà le môme. Merci, c'est adorable. J'ai ma petite équipe. Enfin! La numéro 2 mondiale, 21 ans, c'est fou ça, a touché son rêve à Paris, sa ville préférée. En 2018, à 14 ans, elle remportait Roland-Garros chez les juniors à l'époque. Un tournoi devenu depuis une idée fixe. Roland-Garros, je voulais le gagner parce que quand j'étais jeune, c'était un des tournois que je me sentais la plus capable de remporter. Je me disais que si je terminais ma carrière sans avoir gagné au moins une fois, j'aurais des regrets. Déjà mon taxi? Il est déjà là? Maintenant, je l'ai commandé à 35. Bon, bah, faut que je quitte. Voilà. Bravo Madame Coco Gauff. Voilà. Très beau papier dans le Figaro. Qui rappelle un peu son parcours. Coco Gauff, enfant prodige du tennis américain, propulsé star et curiosité internationale après une victoire contre Venus Williams au premier tour Wimbledon 2019. Elle avait 15 ans à l'époque. Grosse pression sur ses épaules depuis aussi. Hein. L'ascension serait rapide, éclairée, alourdie du poids de l'attente pour se faire une place de choix. Voilà, mais elle est là. Moi, je suis très content parce que c'est une joueuse qui a créé beaucoup d'espoir très très tôt. Et en fait, après, c'est compliqué parce que tu as beaucoup de pression quoi, et d'attente finalement. Surtout, je pense, comme Xiédé dit, Sam, désolé de le dire, quand tu tapes sur la table, ça fait un bruit sourd. C'est un peu désagréable au casque. Comme ça? Quand je tape comme ça? C'est ça là, c'est un peu désagréable. C'est ça là. Là c'est un peu, là c'est ça qu'il faut que je. Ok. Je vais faire attention, promis. Voilà. Et puis avant d'aller déjeuner, eh bien merci aussi au Monde qui rend un hommage à Loïs Boisson, voilà, qui nous a fait rêver à Roland-Garros, battu en demi par Coco Gauff, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et on a un très beau retour sur son parcours, c'est page 19 dans Le Monde. Ici. Voilà, la révélation de Loïs Boisson, numéro 1 française. Voilà. Et maintenant, elle aussi, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Ça fait longtemps qu'on attend une Française au plus haut niveau. Voilà. Et voilà, c'est un modèle de détermination, de caractère qui rappelle comment elle s'est blessée grièvement avant le Roland-Garros, où elle avait une wild card l'an dernier, comment elle a dû se reconstruire en un temps record. Les gens qui l'ont accompagnée, les médecins disent qu'elle est incroyable, qu'elle est formidable. De force, de caractère, détermination. Moi, je trouve ça fascinant. La nouvelle Mauresmo, dit Sabeyran, avec un coup droit dévastateur. Voilà, on retrouve un petit peu l'énergie que Nadal pouvait mettre aussi dans ses matchs. Et donc, voilà, beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente. Déjà, bravo à elle pour ce parcours. Ça aurait été bien une finale boisson-gaufre. Ok, d'accord. Okay. Merci, ça fait plaisir d'avoir été si nombreux dans la revue de presse de ce matin. Vraiment. Je file, je vole, ne me retenez pas. Je vais à mon déjeuner, un déjeuner de travail, bien sûr. Et on se retrouve. On se retrouve ce soir pour du gaming. Alors, est-ce que ce sera du Mechabellum? Est-ce que ce sera la suite d'Heavy Rain? Est-ce que ce sera du Valo en 165 Hz? On ne sait pas. Voilà. Et je vais raid un ou une amie qui est en live là. Ah, il y a mon ami. Mathieu là aussi. Alors, il y a plein d'amis. Ah. J'ai une envie, une petite envie là. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup. Il y a un ami qui nous raide souvent, dont j'apprécie beaucoup le travail. C'est notre ami Citron Violet, qui est un Français qui est installé au Japon. Il nous fait des streams IRL de folie. C'est jamais décevant. C'est toujours super. On apprend plein de trucs. Voilà. C'est parti pour l'ami Citron Violet. Voilà. Voilà. Il est. Oh, puis on voit son visage parce que souvent on le voit pas. Parce que souvent il filme, mais il ne se montre pas. Et là, il est en train de. Mais il est face caméra. Et c'est un beau gosse. C'est parti. À ce soir. Merci pour ce matin. C'était un plaisir d'être avec vous. Et on essaie de se retrouver tous les jours si on peut pour l'actualité. Vous êtes formidable. Merci à Alex pour le message. Voilà. À ce soir. Merci encore. J'ai vraiment passé un bon moment avec vous ce matin. À tout à l'heure. Ça part dans 5 secondes. Ça part dans 5 secondes.
Vauban, qui est au Japon. Et dans 4 jours, on fait le séjour dans un temple. On dort dans un temple. On va faire la méditation le matin. On va méditer et tout. Ça va être trop cool. Ça va être trop cool. Donc voilà ce qu'on va faire là dans les jours à venir. Oh Samuel, merci pour le raid. Attendez, du coup, je redis le programme. Attendez, je me répète. J'étais justement en train d'expliquer le programme là des jours à venir. Du coup, je me présente. Merci beaucoup, Samuel, pour le raid. Je fais des lives IRL au Japon. On voyage dans tout le Japon. Tous les mois, je fais 2 semaines de voyage minimum quelque part dans une région du Japon. Là, on est au début du voyage de juin. Juillet, août, septembre, je serai en live quasiment tous les jours pendant 3 mois, tous les matins, à la découverte du Japon, en long, en large, en travers. On fait beaucoup d'activités autour de l'artisanat, des festivals japonais, des rencontres avec des japonais. Ce matin, on a croisé une mamie japonaise qui parlait français, qui travaillait les champs comme ça. Elle m'a entendu parler, elle est venue me parler. Voilà. Et là, ce qu'on va faire dans les jours à venir, et ce qu'on a fait les jours précédents, on a fait un festival de Yosakoi, c'est un festival de danse très, très, on va dire, visuel. Hier, on a fait une ville qui s'appelle Otaru, c'est une ville côtière avec.